Voilà, merci. Après cette page de publicité, nous allons passer aux choses sérieuses. La campagne de 1813. Alors, bon, on m'a demandé pourquoi 13, pas pourquoi la Saxe, campagne d'Allemagne, les termes sont utilisés. J'ai utilisé la définition, je dirais, chronologique, tout simplement parce que campagne de Saxe, c'est trop court, c'est trop restrictif, pour la bonne raison qu'il y a eu des batailles dans le Mecklembourg, dans diverses régions d'Allemagne. Donc, en campagne d'Allemagne, ce serait peut-être plus exact, mais n'oublions pas que beaucoup de champs de bataille se trouvent maintenant dans d'autres pays. Déjà, Kulm, c'est en Tchéquie, plusieurs champs de bataille sont maintenant en Pologne, donc finalement, pour ne pas avoir trop de complications, j'ai utilisé cette appellation campagne de 1813. J'ai mis deux textes en épigraphe, le premier de Napoléon, vous pouvez le lire, donc cette mémorable campagne sera le triomphe du courage inné dans la jeunesse française, celui de l'intrigue et de l'astuce de la diplomatie anglaise, celui de l'esprit chez les Russes, celui de l'impudeur dans le cabinet autrichien. Elle marquera l'époque de la désorganisation des sociétés politiques, celle de la grande séparation des peuples d'avec leurs souverains. Évidemment, en disant cela à Sainte-Hélène en 1816, Napoléon ne savait pas ce qui allait se passer, mais ça donne déjà quand même un peu l'idée qu'il pouvait avoir à l'époque sur cette campagne. Alors, un autre témoin, le baron Fin, a dit « Les événements de 1813 n'ont pas encore pris le rang qui leur appartient dans l'histoire. L'attention des contemporains, emportée rapidement du désastre de Russie à la grande catastrophe de 1814, n'a pu s'arrêter à loisir sur l'époque intermédiaire. Et cependant, c'est dans cet intervalle que s'est formé le nœud du drame imposant où Napoléon a fini par succomber. » finalement, ce qui a été dit là en 1824 est encore vrai maintenant. Cette campagne de 1813, on la passe souvent sous silence parce qu'elle est écrasée entre la terrible catastrophe de 1812 et les événements 1814 qui ont vu le dernier sursaut du génie napoléonien. Alors, voyons quelle est la situation géopolitique au 1er janvier 1813. Du côté de l'Empire français, nous avons le Royaume d'Italie, Duché de Varsovie, Royaume de Bavière, Royaume de Westphalie, Württemberg, Bade et Danemark. Du côté de la 6e coalition, donc, qui a été créée en 1812 entre le Royaume-Uni et l'Empire russe, à cela viennent s'adjoindre le Portugal et l'Espagne. Comme pays neutre, nous avons à ce moment-là le royaume de Prusse, c'est-à-dire que n'oublions pas que la Prusse était alliée de l'Empire français pendant la campagne de Russie. Il y aura les événements de Taurogen le 30 décembre 1812. Nous verrons cela plus tard. Il y a l'Empire d'Autriche qui est neutre, n'oublions pas cela. À ce moment-là, l'Empire d'Autriche qui a également participé à la campagne de 1812 du côté des Français. Très rapidement, la Prusse va passer du côté de la 6e coalition. Nous avons le Royaume de Suède qui est neutre, mais qui va lui aussi passer du côté de la 6e coalition. Les dates sont indiquées. Et alors, nous avons encore la Saxe qui, elle, a participé à la campagne de 1812, va être neutre au printemps, mais elle va parier sur le mauvais cheval et va rejoindre l'Empire au mois de mai. Alors, le 15 août, j'anticipe un peu parce que je vais faire une présentation chronologique, le 15 août, voilà quelles seront les alliances. Alors, qu'en est-il de l'Empire? C'est la puissance en déclin, c'est un empire fragilisé, mais quand même, c'est toujours la puissance dominante sur le continent. 1812, comme vous le savez, a été catastrophique. Je ne dois pas vous faire de dessin. L'Empire est politiquement ébranlé. Il suffit de penser au coup d'État de Malais qui a failli réussir. Les alliés deviennent de plus en plus douteux. L'armée est en pleine réorganisation, je dirais même reformation. La qualité de cette armée est en très forte baisse. C'est-à-dire que la conscription a apporté les classes 1813 et bientôt celles de 1814. Je note au passage qu'on ne peut pas encore parler de Marie-Louise pour désigner les conscrits français de la campagne de 1813, parce que ce nom vient d'un décret signé par l'impératrice en octobre. Donc tout ce qui se passe avant, on ne peut pas dire que ce sont des Marie-Louise. On l'a dit par anticipation, mais enfin bon. Alors, le gros problème qui ne sera jamais résolu durant toute cette campagne, c'est un manque criant de cavalerie, c'est-à-dire en cavalier et en monture. Pourquoi ? Parce qu'un bon cheval, il doit être formé comme le soldat. Le fantassin, on n'est pas obligé de lui apprendre à marcher. Par contre, le jeune cavalier, on doit lui apprendre premièrement à monter à cheval, deuxièmement la tactique de cavalerie. Donc ce sont deux choses qui font qu'un cavalier, c'est très précieux. On en a perdu beaucoup en 1812, on a perdu encore plus de chevaux, et donc cela fait que ce problème ne sera jamais résolu et ce sera une des causes de la défaite de l'empereur. Il reste évidemment des unités de cavalerie, comme la garde. L'armée est toujours commandée par un génie militaire, je ne dois pas vous faire le dessin. Mais le commandement, lui, est de plus en plus inégal, c'est-à-dire que j'ai même mis fatigué en ce sens que les maréchaux, ils commencent à en avoir marre. Ils n'ont plus rien à atteindre, ils ont atteint le sommet. Ils voudraient rentrer à la maison et profiter du château qu'ils ont pu acheter grâce à ce qu'ils ont gagné sous l'Empire. Donc ils deviennent de moins en moins motivés. Ça n'empêche qu'il y a encore de bons généraux, nous allons le voir. Alors, recréer une armée, comment faire ? C'est une des grandes réussites administratives de Napoléon dont on parle assez peu finalement. Et ce qu'on sait encore moins, c'est qu'avant de quitter Moscou, l'empereur a renvoyé en France cadres, officiers et sous-officiers qui vont servir à constituer cette nouvelle armée. Donc, l'empereur a réfléchi à Moscou déjà à la création de l'armée dont il aura besoin en 1813. Alors, les conscrits de la levée 1813, eux, ils sont déjà à l'instruction. Oui, merci, mais pas d'interrogatoire quand même.
Non.
Je parlerai, ne vous en faites pas.
Oui,
je comprends votre problème. Voilà. Les conscrits sont déjà à l'instruction, ce 1813. Il y a des unités de la garde nationale qui vont être intégrées dans l'armée. Et ces gens-là ont déjà un petit, je ne dis pas un passé militaire, mais ils ont déjà une petite formation, ils savent manier les armes, c'est pas l'élite évidemment, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ça fera des troupes tout à fait valables. Alors, encore mieux, l'empereur va rappeler des vétérans qui sont des gens qui ont déjà très bien servi, qui ont parfois combattu à Austerlitz, etc., et que pour une raison ou une autre, on a renvoyé dans leur foyer. Ces gens-là vont être rappelés et ils vont servir l'empereur avec beaucoup de conviction. On va rappeler également 16 000 hommes d'Espagne, évidemment. En Espagne, il y a quand même encore dans les 200 000 hommes, donc on va faire une ponction sur ces troupes-là. Et alors, l'empereur sait bien qu'il ne pourra jamais rivaliser avec la Royal Navy, donc les marins qui sont de bons soldats vont devenir des soldats, des fantassins, et les canonniers vont devenir des artilleurs. Ce n'est pas négligeable. Tout ça, ensemble, ça fait 120 000 hommes, plus ou moins, de qualité. Alors, on va appeler par anticipation les conscrits de la classe 1814. Ce sera fait au mois de février, mais évidemment, ces gens-là vont arriver au fur et à mesure et ne seront disponibles que pour la deuxième partie de la campagne. Alors, pour recréer cette armée, l'empereur peut compter sur 10 000 Polonais, les survivants de Russie. Les troupes de la Confédération du Rhin, qui va devoir subir de nouvelles levées, et vous imaginez que ça ne va pas provoquer l'enthousiasme. Les troupes du prince Eugène de Beauharnais, qui commande ce qui reste de l'armée, de la grande armée, 50 000 hommes quand même. Ce ne sont pas tous des gens qui ont été jusqu'à Moscou, hein. Ce sont des gens qui étaient sur la ligne de communication. Il n'y a pas tellement de gens qui sont allés à Moscou et qui en sont revenus. Mais bon, ça fait quand même 50 000 hommes, c'était des gens qui gardaient la ligne de communication, qui étaient dans certaines forteresses et autres. Donc à la mi-avril, l'empereur aura 226 000 hommes et 457 canons. Il y a une chose qui est frappante, c'est que trouver des hommes, c'est difficile. Trouver des chevaux, c'est encore plus difficile. Des cavaliers, c'est encore plus difficile. Trouver des canons, ce n'est pas un problème. La Grande Armée a perdu plus de 600 canons en Russie, mais ce n'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que les usines tournent, et de toute façon, vous devez savoir, un canon, à l'époque napoléonienne, il peut tirer 200 coups. Après ça, il est recyclé. Il ne peut plus servir parce qu'il risque d'exploser à la figure des artilleurs. Donc, finalement, on a continué à produire des canons et il n'y aura jamais un manque de canons. Au mois d'août, l'empereur disposera de 400 000 hommes. En gros, évidemment, son objectif était de 500 000, il ne sera jamais atteint. Et alors, comme je vous l'ai dit, manque de cavalerie qui est criant, aussi bien en quantité qu'en qualité. Alors, la Confédération du Rhin... on en parle souvent, on ne sait pas bien de quoi il s'agit. Donc, c'est ce qui regroupe sous la coupe de l'Empire tous les petits États allemands qui sont alliés. Donc, vous voyez là-dedans la Westphalie, créée pour le frère de l'empereur. Vous avez la Bavière, Württemberg, le duché de Bade, la Saxe. Et alors également beaucoup de petits états, Hesse et tout ça, Berg, tous ceux-là ont donné un contingent pour la Russie et vont également donner des troupes. Mais évidemment, la qualité, elle sera de moins en moins bonne et la motivation, elle sera de moins en moins importante. J'attire votre attention sur ceci, qui est la Poméranie suédoise. On ne sait pas d'habitude de nos jours que la Suède a eu des possessions du côté sur les côte allemande. Et donc, ça va jouer un rôle également. Alors, voyons un peu ses alliés. La Bavière, le roi Maximilien Ier Joseph est un ami de l'empereur, on peut le dire. Mais le pouvoir est divisé, c'est-à-dire le roi est pour l'empereur, mais par contre son fils, le Kronprinz, Louis, qui futur Louis Ier de Bavière, est farouchement opposé à l'empereur. Manque de peau, il commande une division dans l'armée bavaroise. Donc, vous voyez à quel type de tiraillement ça peut conduire. La Bavière a eu des pertes effroyables en Russie. Sur 32 000 hommes, il y en a 30 000 qui ne sont pas revenus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous morts, évidemment. La Saxe a subi de grosses pertes en Russie. Le roi Frédéric est également un ami sincère. Il faut dire que quand même ces deux personnes-là sont devenues rois grâce à l'empereur. Hein. Un empereur peut créer des rois. Il ne s'est pas gêné et... C'est donc assez normal que ces gens soient des amis relativement sincères. La Saxe sera neutre jusqu'en mai, mais c'est un allié incertain, et même s'il y a de bonnes troupes, à plus d'une bataille, même à trois batailles, c'est l'armée saxonne qui va faire basculer la victoire dans le camp allié. On verra ça en détail. Le royaume de Westphalie... Donc Jérôme est le frère de l'empereur, il est roi, nouvelle levée, les troupes sont incertaines, d'ailleurs c'est là qu'on aura les premières désertions. Le Württemberg a subi des pertes également, recréé une armée, le duché de Bade est idem, mais notons quand même que ces troupes-là resteront fidèles jusque à Leipzig, où ils seront tous capturés et où ils couvriront héroïquement la retraite de l'armée française, on n'en parle pas souvent. Alors, le duché de Varsovie, et non pas le grand-duché, on dit souvent grand-duché, c'est faux, c'est le duché de Varsovie, dépend en fait de la Saxe, c'est un allié tout à fait sûr, mais le problème, c'est que très vite, dès le mois de février, le duché de Varsovie va être occupé par l'armée russe. Donc, problème, l'élite est tout à fait pour l'empereur, parce qu'elle veut l'indépendance, le peuple est assez indifférent, ce sont des unités de valeur très inégales, les troupes qui sont dans les corps d'armée sont parmi les meilleures, aussi bonnes, si pas meilleures que certaines troupes françaises. Par contre, les troupes qui sont dans certaines forteresses, ce seront les premiers à décamper. Donc, il ne faut pas avoir une idée monolithique de l'armée et des soldats polonais. Subit 50% de pertes en Russie, ce qui est beaucoup, mais qui est quand même moins que d'autres. La population, donc, comme je disais, est un peu divisée. Alors l'Italie, Eugène de Beauharnais, beau-fils de l'empereur, est vice-roi, le roi en titre évidemment étant Napoléon. Ce sont de très bonnes troupes, et alors nous, peut-être, enfin notre génération, a peut-être encore l'idée des Italiens pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas le cas ici. Les troupes du Royaume d'Italie, ce sont de très bonnes troupes, tout à fait comparables aux troupes françaises. Elles sont fidèles. Il y a un sentiment national. Il ne faut quand même pas oublier que Napoléon a créé le Royaume d'Italie pour la première fois dans l'histoire. Par contre, Naples, ce sont parmi les pires troupes. Pour donner une idée, un jour, on avait transféré au Royaume de Naples des troupes africaines dont on ne voulait pas ailleurs. Elles étaient parmi les meilleures au Royaume de Naples. Alors, Murat et Caroline, ça dit assez. Ils vendraient père et mère pour garder leur trône. Ils vont se contenter de vendre le frère, ça suffira. Alors, le Royaume de Danemark, on n'en parle pas beaucoup. C'est un allié fidèle, mais quand même indépendant. Pourquoi est-ce que le Danemark est un allié? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'armée, la marine britannique, en 1807, par ce qu'on peut vraiment appeler un bombardement terroriste, a rasé la capitale du Danemark en faisant plus de 2000 morts. Alors, ce n'est pas étonnant que le Danemark soit allié de l'Empire. Le Danemark a refusé, quand même intelligent, a refusé d'envoyer des troupes en Russie, ça veut dire que l'armée est intacte. La sixième coalition, n'oublions pas, c'est avant tout une alliance réactionnaire contre la révolution. Ce n'est qu'après coup qu'on est venu greffer là-dessus sentiment national, indépendance, libération, etc. C'est une alliance réactionnaire contre les idées de la révolution, dont l'objectif c'est éradiquer les idées de la révolution française. Alors, ici je parle de la récupération par la propagande du XIXe siècle, principalement en Allemagne, mais on en reparlera tout à l'heure. Il y a la guerre de libération pour beaucoup de soldats allemands, prussiens, conscrits, ce n'était pas vraiment ça qui dominait. Alors la Russie, c'est la puissance continentale quand même, a un grand prestige suite à sa victoire de 1812, a subi également de lourdes pertes. Il ne faut pas croire, les Russes ont subi des pertes presque de l'ordre de 50% et même plus. Donc ce n'est pas l'armée de 1812 qui va combattre en 1813, ce sera une nouvelle armée. C'est une armée en reconstitution également, mais c'est un pays immense avec des ressources presque illimitées. Le commandement est divisé. Faut-il poursuivre la guerre ou pas? Kutuzov, lui, ne veut pas. Il a expulsé l'envahisseur et dit « ça suffit, on s'arrête là, on laisse se débrouiller les autres ». Parce que les Russes ont une grave rivalité et même une hostilité envers le Royaume-Uni. À la rigueur, ils détestent plus les Anglais que les Français, mais les Anglais les payent. Et alors évidemment, pour ça, ils doivent la fermer. Alors, il y a une faiblesse du commandement russe. Il y a deux bons généraux, et d'ailleurs, Madame Griffon de Plainville en a parlé largement ici dernièrement. Barclay est quelqu'un tout à fait capable. Kutuzov est pas mal non plus dans le genre, c'est un type intelligent. Mais nous allons voir ce qui va lui arriver. Il y a des unités disparates. Il y a la garde, évidemment, c'est de l'élite. Hein, c'est de l'élite presque comparable à la garde impériale. Mais vous avez des Bashkirs et des Kalmouks. Alors, la Prusse était alliée de l'Empire en 1812, a subi relativement peu de pertes. Évidemment, c'est une grosse poisse pour Napoléon que les deux contingents qui ont subi le moins de pertes pendant la campagne de Russie sont les deux qui vont se battre contre lui, les Prussiens et les Autrichiens. Alors, le 30 décembre 1812, York et le général russe Dibich signent la convention de Taurogen, en Lituanie maintenant, qui déclare la neutralité de la Prusse. York est désavoué par le roi et menacé de cour martiale. Mais le roi s'aperçoit que ça provoque un certain enthousiasme à la cour et surtout dans l'élite prussienne qu'il n'ose pas traduire York en justice. Alors, le 28 février, il y a le traité de Kalitch, alliance avec la Russie, et le 17 mars, déclaration de guerre à l'Empire. Le royaume de Prusse, la puissance qui monte, l'armée est tout à fait transformée. Elle doit venger l'humiliation d'Iéna à Auerstedt et du traité de Tilsit. C'est un nationalisme naissant. Forte motivation, je mets un point d'interrogation parce que ça a été fortement gonflé par la propagande du 19e siècle. Les unités sont jeunes. Conscription, décomplexée, de qualité inégale et très souvent inexpérimentée. Mais elles sont bonnes, ces troupes. On a souvent, traitez-le, enfin non, on n'a pas souvent, mais j'ai trouvé intéressant le parallèle avec les armées de la République en 1792-93. Jusqu'à un certain point, cette comparaison est exacte. Mais l'idéologie est un peu différente, évidemment. Les armées de la République, c'était pour changer le monde, même au-delà des frontières, tandis que les Prussiens, ils font la guerre pour la Prusse. Alors, je disais, ça a été récupéré par la propagande. Le commandement prussien est de qualité, inégal, c'est pas tous des foudres de guerre. Et ce qui est particulier, c'est que ce commandement, donc tous ces généraux, ils sont politiquement très conservateurs, mais tactiquement, ils sont progressistes. C'est paradoxal, mais c'est indéniable. Alors, l'Autriche était l'allié de l'Empire en 1812. Il y a eu relativement peu de pertes en Russie, comme je vous disais. Fin janvier, c'est la neutralité, réaffirmée au mois d'avril, se déclare neutre pour te servir d'intermédiaire, mais au mois de juin, c'est la mobilisation générale. Et on sait très bien que si l'Autriche mobilise, ce ne sera pas pour mettre son armée au service de Napoléon. L'armée est nombreuse, est en restructuration, mais elle est en restructuration depuis 1805. La qualité et le commandement sont moyens, qualité des troupes donc, la situation particulière de l'empereur qui est quand même le beau-père de Napoléon, mais par contre une diplomatie très ambiguë avec Metternich qui n'attend qu'une chose, c'est de rejoindre les alliés et il va déterminer la politique de l'Empire d'Autriche. Alors l'objectif de l'Autriche c'est d'affaiblir Napoléon, pas de le renverser, et de récupérer les provinces illyriennes, donc sur la côte dalmate, qui font partie de l'Empire actuellement, donc à ce moment-là, et également l'Italie. La Suède, c'est un autre cas, elle a été en guerre avec la Russie, elle a perdu la Finlande dans la guerre de 1808. Elle est depuis lors alliée de la Russie, et elle veut récupérer par contre, elle a perdu la Finlande, mais elle louche de l'autre côté, elle veut récupérer la Norvège sur le Danemark. Ça lui tombe bien, ça tombe bien parce que le Danemark est du côté de Napoléon. Donc la Suède va s'engager du côté des alliés. Il y a le cas particulier de la Poméranie suédoise qui fait donc que la Suède a un pied sur le continent. Et alors évidemment, il y a Karl XIV Johann qui est le prince héritier, il est adoptif évidemment, futur roi, et c'est Bernadotte. Et Bernadotte va avoir la même attitude ici qu'il a eu du temps où il servait Napoléon, c'est-à-dire qu'il va être extrêmement prudent. Mais en plus, il y a une raison supplémentaire ici, c'est que la Suède est un petit pays, avec une petite armée. On la lui a confiée, il n'a pas intérêt à ne pas la ramener intacte, sinon ça lui coûte son emploi, c'est-à-dire il ne sera jamais roi. Et ça va expliquer son attitude d'une extrême prudence, il va vraiment y aller que quand il est sûr de la victoire. C'est d'une part son caractère, mais c'est du calcul. Alors, à la rigueur, dans un deuxième stade, peut-être plus en 14, il voudra amener un changement de régime en France, quand il visera plus le trône de France que celui de Suède, parce que c'est quand même plus intéressant. Le Royaume-Uni, c'est le grand financier de coalition, évidemment, comme depuis le début. Le Royaume-Uni veut la chute de l'empereur, mais surtout veut éradiquer les idées de la Révolution. Le Royaume-Uni est peu impliqué sur ce front. Par contre, il est engagé en Espagne et, ce qu'on oublie, en Amérique. Il y a la War of 1812 qui continue. Donc, de facto, les États-Unis d'Amérique sont l'allié de Napoléon. Il y a la Royal Navy qui commande les mers. Et il y a bel et bien, et ça on l'oublie très souvent du côté français, il y a une opposition libérale, mais celle-ci est muselée. En ce sens que oser à ce moment-là affirmer des idées libérales, c'est considéré un peu comme une trahison, parce que ce sont les idéaux de ceux d'en face. Et donc, même si beaucoup de Britanniques ne sont pas d'accord avec les conservateurs au pouvoir ni avec le roi, ils sont obligés de soutenir leur pays. Alors, c'est une guerre avec des théâtres multiples. On va principalement se concentrer sur l'Est. Théâtre secondaire, Allemagne du Nord, je vais en parler. L'Italie, je ne vais pas en parler. Et les autres fronts, la péninsule et l'Amérique du Nord, je ne vais pas en parler non plus. Ces autres fronts, En Amérique du Nord, donc la guerre de 1812 qui va continuer tout 1813 et 1814, et dont, vous le savez sans doute, la paix a été signée par le traité de Gand le 24 décembre 1814, donc chez nous, mais le temps que les nouvelles arrivent, la guerre va continuer jusqu'en 1815. Alors, la péninsule, toutes les batailles, je ne peux malheureusement pas en parler. L'armée française à ce moment-là, c'est quoi? C'est l'armée du Maine qui se recrée, où on a rassemblé la garde et les corps que vous voyez, je ne vais pas tout lire. Il y a l'armée de l'Elbe, sous le commandement d'Eugène, qui a donc succédé à Murat, avec ces corps-là fort diminués, et alors également trois nouveaux corps en cours d'organisation. Donc globalement, ça donne ceci. Très facile, l'armée française, parce que c'est cartésien, les corps se succèdent, je vais les nommer une fois, on reverra après coup, parce que ce sont quand même des noms qu'on connaît, et donc Vandamme, premier corps, Victor, le deuxième, Ney, troisième, Bertrand, 4, Lauriston, 5, Marmont, 6, Régnier, 7, MacDonald, 11, Oudinot, 12. Alors, j'attire votre attention, le quatrième corps est en partie composé d'Italiens, et une division italienne après deux, et une division wurtembergeoise. Le septième corps, deux divisions saxonnes, et le douzième corps comporte une division bavaroise. Donc là, vous voyez comment tous ces contingents des différents pays s'intègrent dans la grande armée. Quatre corps de cavalerie, mais vous voyez que certains, comme celui d'Arrighi, très, très faibles encore, c'est au début de la campagne en cours d'organisation. N'oublions pas non plus, il y a des garnisons et forteresses qui rassemblent au total 50 000 hommes. On va voir ça en détail. Alors, du côté allié, c'est bien plus compliqué parce que les corps d'armée vont passer d'un commandement à l'autre au fur et à mesure de leur création. L'armée de Wittgenstein, je parle au début, comporte trois corps prussiens. Mais certains, quand l'armée de Blücher est créée, vont être transférés et vont passer dans l'armée de Blücher. Donc, surtout au printemps, c'est très compliqué de suivre la composition des armées alliées. Il y a l'armée russe principale, qui est encore loin, Miloradovitch, l'armée de Tormasov et autres armées, Walmoden, qui a un commandement un peu séparé dans le nord de l'Allemagne, on va le voir. Barclay, actuellement, qui est donc un très bon général, fait le siège de Torun, en Pologne. L'armée d'Ostensacken poursuit et bloque Poniatowski, qu'on va voir tout à l'heure, et les troupes de Pahlen occupent le duché de Varsovie. Et alors, il y a également des troupes russes qui assiègent les places fortes. Bon, ici, juste pour le plaisir des yeux, quelques types de militaires français, la garde impériale, ce sont des dessins de M. Bernard Coppens. L'infanterie, bon, vous connaissez, je ne dois pas entrer plus en détail, je vous montre quand même, ça c'est les troupes telles qu'elles se présentent avec l'uniforme. Je ne dis pas que le règlement Barnard va être appliqué, mais enfin bon, on commence beaucoup plus qu'en 1812. Bon, quelques images de reconstitution, infanterie de ligne, infanterie légère, la cavalerie, bon, vous connaissez sans doute, cavalerie lourde, carabiniers, cuirassiers, ce sont des photos qui datent de la reconstitution de Borodino. Les dragons, dont je salue certains qui sont dans la salle, les lanciers, et vous verrez l'uniforme des lanciers polonais, ici ceux de la garde, bon, c'est un peu clair, hein, mais enfin, un peu trop clair à mon goût, mais vous allez voir que cet uniforme ressemble très fort aux lanciers polonais qui servent dans l'armée russe, d'où certaines confusions dont on parlera tout à l'heure. La cavalerie légère, ici évidemment, la cavalerie légère la plus connue, les chasseurs à cheval de la garde impériale qui escortent l'empereur en personne, et alors des hussards, le septième si je ne me trompe. Artillerie à cheval, très beaux uniformes, c'est presque des hussards, l'artillerie à pied. Le royaume d'Italie, duché de Varsovie, royaume d'Italie, c'est pas difficile, c'est l'uniforme français où le bleu est remplacé par du vert. Alors l'infanterie polonaise, caractéristique sur le shako, c'est ce demi-soleil, on les reconnaît à ça, et d'ailleurs le shako est souvent une chapska, les lanciers. Alors voyons de l'autre côté, la garde de l'Empire russe, des troupes d'élite comme je disais, l'infanterie. Alors l'armée russe a subi une réorganisation subit un nouveau règlement vers 1809-1810. Il y a des modifications d'uniforme et une petite chose qui est facile à identifier, les grenadiers ont une grenade à 3 flammes, tandis que les fusiliers ont une grenade à 1 flamme. Ça, on identifie. Certaines troupes ont encore la mitre. Alors ici, vous voyez, ce sont des grenadiers, 3 flammes, l'infanterie russe, la cavalerie, divers types de cavalerie. Ici, ce sont des dessins de Patrice Courcel. Alors, les Cosaques du régiment, des Cosaques de Sa Majesté de la Garde impériale russe, c'est le titre officiel. Également des cuirassiers, que vous voyez ici, divers régiments, et des Uhlans. Et quand vous voyez cet uniforme-là, vous vous dites, n'oublions pas que les Uhlans dans l'armée russe sont polonais, aussi polonais que les lanciers dans la garde impériale. Donc, c'est pas étonnant non plus qu'ils portent le même uniforme traditionnel polonais, et vous voyez qu'il est fort semblable. Hussards, ben, le hussard ressemble à tous les hussards du monde. Le dragon, avec casque à crinière, crinière qui n'est plus une chenille comme dans le règlement précédent. Alors les Cosaques, il y a vraiment de tout, vous voyez, du Don, de la mer Noire, Boug, Orenbourg, Sibérie, etc., etc. Les Cosaques, c'est les ressources illimitées de l'Empire russe. Alors en plus, vous avez les Bashkirs, les Kirghizes et les Kalmouks. On ne rit pas dans la salle. Et alors les Kalmouks, ici, bon, c'est surtout les anciens militaires belges qui doivent sourire à l'idée de Kalmouks, parce qu'on en parlait souvent, mais en fait, les Kalmouks, ici, toutes les troupes équipées d'arcs et de flèches, les Français, par dérision, les appelaient les Cupidons. Donc, ils ne s'en faisaient pas trop. Marbot a fait quelques blagues à ce sujet aussi, parce qu'ils n'étaient pas vraiment dangereux. Par contre, il y a des Kalmouks, il y a même des régiments de Kalmouks avec uniforme, hein. Donc c'est pas du tout venant, ce n'est pas des gens qui sortent de leur hutte et qui vont comme ça au combat. Ici, peut-être un des uniformes les plus rares au monde, c'est un authentique uniforme de Kalmouk conservé au musée de Leipzig. Ici, je passe brièvement en arrière parce que je voulais dire quelque chose à propos des... Oui, par contre, quand même, les circassiens, c'est une autre peuplade équipée souvent d'arcs et de flèches, et en plus de cottes de mailles comme au Moyen-Âge. C'est assez particulier, les Français qui ont vu arriver ça. Alors, le royaume de Prusse, la garde et la ligne, nouvel uniforme, nouvelle mentalité, la ligne et la Landwehr. La Landwehr qui formera évidemment et qui donnera le volume de cette armée. Et alors, bon, je suppose que la plupart d'entre vous dans cette salle connaissent mieux la campagne de 1815, mais ceux qui ont un peu étudié les organigrammes s'aperçoivent qu'en fait, dans l'armée prussienne, les divisions s'appellent brigades. Et ça remonte en fait à cette époque-là parce qu'ils avaient créé des brigades de l'armée d'actifs. Mais par le système Krumper qui avait été instauré, qui faisait que les gens ne servaient pas longtemps mais restaient plus ou moins dans la réserve, il était très facile de rappeler ces gens-là. Et donc pour une brigade d'actifs, on créait deux brigades de réserve de Landwehr à côté. Et donc ces trois ensemble, finalement, formaient une division. Et c'est pourquoi, mais on gardait le nom de brigade. C'est pourquoi les brigades des divisions de l'armée prussienne s'appellent brigades. Voilà quelques reconstitueurs d'infanterie prussienne. Alors la Landwehr, pas toujours bien équipée, parfois avec des sabots. La Landwehr qu'on identifie, bon, uniforme très simple évidemment, hein, le sarrau bleu parfois, mais qu'on identifie toujours grâce à ceci, c'est la petite croix de Malte sur le couvre-chef, qu'il soit shako, képi ou casquette. Et donc quand vous voyez ça, vous voyez directement que c'est de la Landwehr, et d'ailleurs, ça restera jusqu'en 1918. Landwehr, donc ici, pour la constitution, c'est pratique, il suffit d'une capote. Cela, ce carré me fait penser en fait que l'équipement, évidemment, ça fait énormément de troupes. Il faut les équiper en armes. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer énormément de fusils français, Charleville 1777, et également tout les bric-à-brac dont les Anglais ne veulent plus. Donc les Anglais vont vraiment vendre à prix d'or aux Prussiens des vieux fusils déclassés de l'armée britannique. Et les Prussiens sont très contents parce qu'au moins ils ont des armes. Évidemment, il n'y a aucune production d'armes en Prusse à ce moment-là. Ou très peu, quoi. Bon, la Landwehr, c'est l'infanterie, mais c'est également la cavalerie prussienne, troupes de Lützow, on en parlera tout à l'heure. Voilà, il y a quand même des troupes bien équipées. Et alors, le corps franc de Lützow, c'est un peu l'élite, mais l'élite intellectuelle, qui n'est pas nécessairement l'élite militaire. Beaucoup d'étudiants, très motivés, c'est l'intelligentsia. Ça attire, ils ont un uniforme noir parce qu'ils venaient de différentes unités, donc il y a quand même des militaires de carrière, et ils ne savaient pas se mettre d'accord pour savoir quel type d'uniforme ils allaient adopter, ils ont dit, eh bien, on peint tout en noir, et donc, en plus, ça, évidemment, ça faisait belle impression. En plus, comme ils combattaient souvent de nuit, ça aidait, et c'est les ancêtres des commandos, ils ont vraiment adopté des tactiques de raid, parfois loin derrière les lignes, et pour ça c'est devenu une élite, c'est devenu presque mythique. Alors les Autrichiens, bah, c'est toujours la même armée, toujours le même petit signe distinctif, le Feldzeichen, qui sont tout simplement des feuilles de chêne qu'on met en campagne sur le couvre-chef. C'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge et qui perdurera jusqu'en 1918. Alors infanterie et artillerie autrichienne. Bon, autrichien, il y a les troupes allemandes, donc d'Autriche, blanches, à uniforme blanc, et alors une sorte de mitre poilu. C'est pas vraiment abonné à poil parce qu'il est creux à l'arrière. Et alors les troupes hongroises, pantalon bleu ciel et shako. Le shako, en fait, devait remplacer, mais comme le casque coûtait très cher, ils l'ont gardé finalement jusqu'à la fin des guerres napoléoniennes. Alors ici, vous avez dragons, uhlans et hussards autrichiens en haut, et des cuirassiers autrichiens en bas. Les autres armées, la Suède, Royaume-Uni, on va en parler, et Danemark, j'en ai déjà brièvement parlé. Le royaume de Saxe, artillerie et infanterie. Alors ici, pour la cavalerie, j'ai quand même fait mon choix. J'ai présenté les deux régiments saxons qui ne sont pas passés à l'ennemi et qui sont restés fidèles à l'empereur. Royaume de Bavière, infanterie bavaroise. Ici, au musée d'Ingolstadt, quelques généraux bavarois, dont l'uniforme du Kronprinz. Württemberg, la garde, chasseur à cheval. Musée de Rastatt, bon, chasseur à cheval, c'est légèrement antérieur à la période qui nous occupe, enfin quelques années. Le duché de Bade, Zweite Badische Jägerkompanie, et alors le hussard. Alors j'ai quand même mis cela parce que l'équivalent dans l'armée badoise de l'aigle, c'est un griffon. Et vous voyez ici ce très bel objet qui est donc un emblème. Westphalie, le royaume de Jérôme, infanterie, cavalerie de la garde. D'ailleurs, quand vous voyez cette cuirasse, vous en avez un exemplaire que vous pouvez voir dans une vitrine au musée du Caillou. Alors, brièvement, les principes de la guerre napoléonienne. Je ne vais pas donner un cours d'état-major, mais les deux principes, j'aime bien revenir là-dessus, parce que c'est comme ça que l'empereur fait la guerre. La manœuvre sur position centrale, il n'a pas inventé, mais il a perfectionné le système des corps d'armée. C'est-à-dire que les corps d'armée, ce sont des armées en miniature, avec infanterie, cavalerie, artillerie, environ 10 à 20 000 hommes, qui se déplacent à une journée de marche l'un de l'autre, donc en suivant des itinéraires différents, ce qui facilite l'approvisionnement. Ça veut dire aussi que si un de ces corps d'armée rencontre l'ennemi, un ennemi supérieur en nombre, il a tout ce qu'il faut pour résister, et c'est calculé, pendant 24 heures. Comme tous les autres, à sa gauche, à sa droite et en arrière, sont à un jour de marche, le lendemain, le corps d'armée combattra renforcé des deux ailes et de la réserve, qui est souvent la garde, et donc se retrouvera de la position d'infériorité en supériorité et pourra détruire. C'est aussi simple que ça, mais la mise en pratique est plus difficile. Alors, le deuxième grand principe de la guerre napoléonienne, c'est la manœuvre sur les derrières, maintenant on dirait les arrières, c'est tout simplement essayer de couper la ligne de communication de l'ennemi. Donc on va fixer l'ennemi, la cavalerie légère va s'y trouver la ligne de communication de l'ennemi, une partie des troupes va faire un mouvement tournant, et à ce moment-là, par la percée frontale et latérale, on va couper les lignes de communication. Alors, la diplomatie, évidemment très important, convention de Taurogen, je vous en ai parlé, traité de Kalitsch, alliance de la Prusse avec la Russie, fin février, déclaration de guerre, on l'a vu, la même date, Metternich signe la convention de Kalitsch et donc rejoint la Prusse et la Russie, tout en restant neutre, évidemment une ambition, une position très ambiguë. Alors, le 25, Kutuzov sort le manifeste de Kalitsch et il dissout la Confédération du Rhin. Facile, il peut dire ça puisqu'il n'a absolument rien à dire dans le domaine, puisque les gens de la Confédération du Rhin, ils sont encore du côté de Napoléon. Alors, le 24 avril, l'Autriche se déclare à nouveau neutre. Elle l'avait déjà fait pour être une médiatrice armée. Bon. Et ça, en infraction flagrante avec le traité de 1812 qui la liait à l'Empire. Et la Saxe se déclare neutre. Alors, voilà la situation. Murat commande encore... Ici, nous retournons un tout petit peu en arrière à la mi-décembre. Murat est à Kovno ou Kaunas maintenant. Mais il continue à se replier vers Königsberg et s'installe là. Ensuite, sur l'aile gauche de la Grande Armée, on regarde vers la Russie, il y a le corps de MacDonald qui est essentiellement composé de Prussiens, qui se retire également, évidemment, il ne va pas rester tout seul en Russie, et s'installe à Taurogen. Et c'est là qu'a lieu la convention de Taurogen, et MacDonald se retrouve quasiment sans soldats, parce que tous ces soldats se sont déclarés neutres. En d'autres termes, il passe à l'ennemi. Alors, Kutuzov, lui, il prend ses quartiers d'hiver aux alentours de Vilnius. Il ne faut pas oublier, l'armée russe a beaucoup souffert. Sur l'aile droite française, nous avons Poniatowski, Schwarzenberg et Reynier, mais surtout Schwarzenberg. Schwarzenberg veut, donc l'Autrichien, veut retourner en Autriche. Évidemment, il entraîne avec lui aussi bien les Polonais que les Saxons. Il recule vers Bialystok, puis Varsovie, et puis il rentre en Autriche, emportant avec lui et presque séquestrant les Polonais qui ne savent rien faire d'autre que suivre, et en plus ils seront, je ne dis pas désarmés, mais ils seront mis en Autriche sous surveillance. Alors, Murat se dit qu'il a mieux à faire que de rester dans le froid et il veut retourner à Naples. Ce qu'il fait en disant à Eugène, tu t'occupes du bazar, et Eugène, lui, il doit se replier sur Posen, ici, alors que, je regarde parce que c'est quand même assez clair, on ne voit pas, c'est un peu trop clair, ce que moi j'ai sur l'écran honnêtement, Posen ici, avec une ligne de défense sur la Vistule. Voilà, Posen. Alors, une partie de l'armée française s'enferme dans Danzig, ce sera le 10e corps sous Rapp. Thorn, maintenant Torun, est également assiégé, de même que Modlin. Modlin, c'est tout simplement c'est la forteresse qui commande Varsovie. Modlin est à Varsovie, ce que Spandau est à Berlin. Même chose pour Zamość. Et alors, Kalisz, un peu plus loin, au sud de Posen, le premier combat de 1813, et on se demande si ce n'est pas la dernière bataille de la campagne de Russie. Les Français, ici en l'occurrence Reynier, reculent, sont attaqués par le corps, par l'armée de Wintzingrode. Reynier repousse les troupes alliées et continue sa poursuite, continue sa retraite. Les Russes sont un peu effarouchés, et donc il peut continuer. Ce n'est pas une bataille décisive, mais c'est quand même un combat qui doit être mentionné. Alors, la ligne de défense d'Eugène, à cette date-là, sur la Vistule, avec quartier général à Posen, on l'a vu, mais 6 jours plus tard, il est sur l'Oder avec quartier général à Francfort sur l'Oder, et le 6 mars, il est sur l'Elbe avec quartier général à Wittenberg. Bon, on a vu les quatre facteurs d'appréciation, sauf le terrain. Donc on a vu les armes, la mission, ça va de soi, l'ennemi, l'un pour l'autre, évidemment, mais voyons le terrain. Le terrain, c'est la plaine du nord de l'Allemagne. Oui, je suis désolé que ce soit un peu clair, je n'avais pas prévu cela. C'est un réglage du projecteur. Donc vous avez une plaine qui est coupée par plusieurs fleuves. L'Oder, deuxièmement vous avez l'Elbe, et alors, pas tellement important pour nous maintenant, c'est ici la Vézère et le Rhin. Et alors il n'y a pas seulement les fleuves, il y a également les montagnes. Vous avez ici ce qui est marqué Mont des Géants, donc le Riesengebirge, avec les monts de Lusas. Ensuite, les monts métalliques, donc le Erzgebirge, qui forment vraiment la frontière encore maintenant entre la Tchéquie et l'Allemagne, très difficile à franchir, qui jouera un rôle important. Et là, vous avez le Thüringenwald et le Frankenwald, si je ne me trompe. Frankenwald, oui, c'est cela. Et, bon, Posen, quartier général d'Eugène, ensuite Francfort et finalement Wittenberg. Alors, la carte, voilà le terrain avec situation des différentes villes qui vont jouer un rôle. Je la montrerai souvent, mais on y reviendra. Actuellement, je vous parle de Glogau. Pour son premier siège, la ville subira deux sièges. Et on va voir qu'il n'y a pas que Glogau, il y en a d'autres. Danzig avec Rapp. Et je mentionne donc chaque fois le nombre d'hommes encerclés et jusque quand le siège va durer. Ces sièges vont durer jusqu'au bout pour tout ce qui est au nord et à l'est. Toutes les autres villes assiégées qui sont plus au sud et plus à l'ouest vont être dégagées par la progression des armées Napoléon au printemps. Mais vous voyez que actuellement, l'armée française ne fait que se replier, évidemment, il n'y a plus d'armée organisée, et les alliés en profitent, ils foncent. Donc, défense en profondeur, les alliés en profitent. Donc, Danzig est assiégé, Zamosch également. Donc, vous voyez aussi donc, le nom, chaque fois, Auke Morellon, Modlin, Dandels, Glogau, dont je vous parlais, Stettin, Küstrin, Spandau va également être assiégé. Et alors deux autres villes, Wittenberg et Magdebourg, ne vont pas vraiment être assiégées, mais vont être sous la menace de coups de main de Cosaques ou de cavalerie prussienne. Alors, donc vous voyez, ça sera jusqu'au bout. Ça va être dégagé, jusqu'au bout, dégagé. Quand vous voyez mars ou mai, avril ou mai, ça sera libéré. Tandis que les zones ne seront jamais dégagées et le siège durera jusqu'à la fin de la guerre. Glogau, que vous voyez ici, donc sur l'Oder également, quand j'y étais, il y avait tous ces anciens bâtiments qui existaient à l'époque de l'Empire qui étaient dégagés, ils faisaient des fouilles. Et alors, ici, un livre dont je vous conseille la lecture, Les Oubliés du Fleuve, sur les deux sièges de Glogau, la ville a fait que toutes ces fortifications sont détruites. Par contre, le fort ici est encore conservé. Bon, ici, une muraille conservée, et alors ici, un des forts, bon, qui ont été parfois modernisés ultérieurement, mais enfin bon, quand même. Alors, voilà toutes les villes assiégées. Torgau est un cas un peu particulier parce qu'elle est occupée par une garnison saxonne. Les Saxons sont neutres. Et le commandant des troupes saxonnes dit, si c'est comme ça, on ne laisse passer personne. Bon, vous allez voir, le commandant de Torgau, c'est un monsieur Thielmann, que vous connaissez parce qu'en 1815, il commandera le 3e corps prussien. Donc c'est un Saxon, mais qui est très proche des Prussiens, et qui le prouvera. Bon, voilà toutes les batailles de la campagne de printemps, on verra ça. Ça c'est la carte de West Point, j'ai ajouté quelques cartes qui permettent parfois d'avoir une autre vue, mais c'est éventuellement pour des questions également. Premier combat, attention ici, on n'est pas du tout en Saxe, on est 50 km au sud de Hambourg. Hein. Petit combat, mais une grave conséquence, c'est la mort du général Morand. Morand est un des trois divisionnaires de Davout. On a déjà perdu Gudin en Russie, maintenant c'est Morand. C'est quelqu'un de très important, enfin, c'est un général de qualité. Voilà pour cette bataille-là. Alors ici, Lunebourg, c'est la bataille dont je vous ai parlé, Lunebourg. La suivante, Meckern. Meckern va voir s'affronter Eugène et les armées de Wittgenstein, et je vois, j'indique chaque fois 5e corps moins, 11e moins, corps moins, parce que ce n'est pas le corps dans son ensemble, ce sont quelques unités. Aussi, vous voyez parfois des chiffres très variables, ça dépend des sources, ça dépend des historiens, et finalement les deux ont raison. Pourquoi? Certains donnent des petits chiffres parce que ils mentionnent uniquement les troupes engagées. Les autres mentionnent les troupes qui étaient présentes et qui n'ont pas combattu, ou qui étaient présentes et dans les parages. Bon, ils n'ont pas combattu, mais étant présents, ils ont eu une influence sur le combat. Donc, est-ce qu'on les mentionne ou on ne les mentionne pas? C'est ça qui explique. C'est pas qu'on ne sait pas qui était présent, c'est que c'est une différence de point de vue. Par contre, pour les pertes, c'est un peu différent. C'est que chacun croit qu'il a occasionné beaucoup plus de pertes à l'ennemi et qu'il lui-même en a subi. Ici, c'est très précis. C'est selon les relevés du prince Eugène. Par contre, les Prussiens disent on a occasionné plus de 1000 pertes à l'ennemi. Quand je dis pertes, c'est morts, blessés, prisonniers, disparus. Hein? Parce que parfois, il y a des gens qui confondent pertes et morts. Et alors, évidemment, on a des chiffres faramineux. Un disparu, c'est aussi quelqu'un qui est rentré à la maison. Hein, ça. Et alors, ici, les Prussiens reconnaissent 413 tués et blessés, et les Français disent on a fait 1200, on a occasionné 1200 pertes. Bon, conclusion de cette bataille, c'est un repli français. C'est une bataille assez décousue sur trois fronts, à trois niveaux, donc Zednik et Meckern au nord, qui vont affronter, je ne lis pas bien, les troupes prussiennes au nord, Wehlitz au milieu, et alors au sud, vous avez Danikov qui est attaqué par les troupes de York. Alors ici, Wehlitz et le champ de bataille avec le monument. Beaucoup de ces monuments datent du centenaire, hein, donc datent de 1913. Ici, par contre, à Ladeburg, c'est au sud, également un champ de bataille bien préservé et intéressant à visiter. Bad Langensalza, c'est en Thuringe. Donc la Thuringe, c'est les environs d'Iéna et d'Auerstedt. L'armée bavaroise. Et vous regardez ici les chiffres. À 1 contre 10, ils réussissent à occasionner pas mal de pertes et à prendre la quasi-totalité. Oui. Je n'ai pas encore dit, mais pour ne pas écrire en toutes lettres, quand je mets un chiffre, c'est les pièces d'artillerie. Je ne mets pas canon, parce que dans les pièces d'artillerie, il y a également les obusiers. Donc, je ne vais pas dire canon, je ne mets rien, ou je dis pièces. Donc, ça, ils en prennent 5 sur 6, ça avec 150 hommes. C'est un raid de commando, tout simplement. Alors, la veille, Napoléon a quitté Paris. Bon, on reprend notre carte, et cette fois-ci, on regarde la ville de Bunzlau, qui s'appelle maintenant Boleslaviets, et c'est là que ce brave Kutuzov décède des suites de ses blessures, de ses fatigues, de maladies, d'empoisonnement du sang. Oui, mais qu'est-ce qu'il a causé exactement? Donc, il faut dire aussi qu'il avait 72 ans quand même, donc il était épuisé. Pour lui, la tâche était accomplie. Ça a peut-être joué un rôle également, et il meurt. Il meurt dans cette maison qui est restée plus ou moins, donc les meubles sont restés intacts jusqu'à la fin du régime communiste. Ensuite, et sous contrôle russe évidemment, les Russes ont tout emporté et ont recréé la chambre où il est mort au musée de l'artillerie à Saint-Pétersbourg. Et donc on peut voir ça. Depuis lors, ça a été récupéré par les Polonais, et c'est devenu le musée communal. Un magnifique monument a été érigé sur ordre de Frédéric Guillaume III. Et le projet a été confié à Karl Friedrich Schenkel. Schenkel, je vais beaucoup vous en parler, c'était vraiment l'architecte à la mode à l'époque, et il a eu une commande formidable après les guerres napoléoniennes. à croire qu'il c'était un des responsables. Alors ici, un monument quand même particulier, c'est la tombe des entrailles de Kutuzov, parce que quand on a dû évacuer son corps, on a dû l'embaumer, et on a érigé une tombe juste pour ses entrailles, à la sortie de la ville, et en 1944-45, l'armée soviétique a créé son cimetière militaire autour de la tombe de Kutuzov. C'est pour dire qu'il n'était quand même pas oublié. Et à l'entrée de ce cimetière militaire, vous avez d'un côté un grenadier russe de 1813 et de l'autre côté un soldat soviétique de 1944. Kutuzov lui-même sera enterré dans Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg. Et sur sa tombe, on placera des étendards pris aux Français, à la Bérézina et à Krasnoïe et à d'autres endroits. Et alors en plus, on placera les clés de 8 villes ou citadelles françaises conquises par les armées russes. Ici, vous avez les clés de la ville d'Avesnes-sur-Helpe. Voilà la situation au 25 avril. Les villes assiégées. Torgau, ça je vous ai parlé de Tillmann. Les troupes d'Eugène, alors un combat le 28 avril, Lauriston est repoussé par Kleist, mais en même temps à Merseburg, MacDonald repousse une partie de l'armée de Kleist, et à Weissenfels également, la division Souhan rencontre les Russes et les repousse. L'empereur arrive avec ses troupes. Voilà, petit récapitulatif, on a vu Mekern, Denikov, on a vu ces batailles-ci, et on va s'orienter vers Lutzen. Mais d'abord un petit coup d'œil à Merseburg, les Prussiens sont forcés à la retraite, perte légère de part et d'autre, aucun monument, mais quand même ceci, dans une maison, vous voyez encore un boulet incrusté, souvenir de cette bataille, le seul dans cette ville. Alors l'affaire de Ripach, je n'en parlerai certainement pas, parce que c'est une simple canonnade, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est une immense perte pour l'armée française. Le maréchal Bessières est tué. Ça a été abondamment représenté. Ici, un tableau de Boutigny. Et alors quand même, le Scharnhorst-Comité, donc je veux dire que les Prussiens ou les Allemands ne sont pas si mauvais que ça, ils ont érigé il y a quelques années une stèle, un beau petit monument à l'endroit où Bessières a été tué. Donc c'est les Allemands qui ont fait ça tout seuls. C'est un bel hommage. Alors, le matin, Bessières rencontre l'empereur ici, à l'auberge du Cygne Blanc, et après, son corps sera emmené ici, et il sera embaumé dans la maison du Tisserand, qu'on voit là. Ici, vous avez une plaque qui était restée pendant... jusqu'au départ des troupes françaises de Berlin, était dans une caserne, et ensuite cette plaque a été apposée à l'auberge du Cygne Blanc, et il y a la même dans son village natal, dans sa ville natale, pardon. Alors, Lützen, que les Allemands appellent Großgürschen, ce qui est nettement plus correct parce qu'on s'est battu à Großgürschen, on ne s'est pas battu à Lützen, mais Napoléon, il n'oublie pas sa publicité, je dirais, et tout simplement, il veut appeler cette bataille « Bataille de Lützen » parce que ce sera une victoire pour lui, et que ça le rattache à la grande victoire de Gustave Adolphe en 1632, bataille où Gustave Adolphe de Suède sera tué, mais remportera malgré tout la victoire. Donc, Napoléon n'oublie jamais, en nommant ces batailles, de faire des petits clins d'œil vers l'histoire. Donc, voilà les troupes françaises qui affrontent les troupes russes et prussiennes qui sont supérieures en nombre, mais ce sera une défaite des alliés. Et la défaite, ça se voit au fait qu'il y a pas mal de prisonniers. Une armée victorieuse, évidemment, ne laisse pas de prisonniers, ou quasiment pas. Alors, les Allemands appellent ça Großgürschen. Tout va se passer dans le quadrilatère entre Kaya, Kleingürschen, Großgürschen et Rana. Alors, on voit ici, Ney, troisième corps, est installé. Marmont arrive sur sa droite, sixième corps mais n'est pas en place, tandis que la garde est encore à Lützen. En face, il y a Blücher, soutenu par Berg, York, Wintzingerode, Alors, ici, les positions à 11h, Wintzingrode s'est mis sur la gauche, Blücher attaque le quadrilatère en question, mais Marmont vient au secours de Ney. Ney contre-attaque et les quatre villages, qui sont à peu près à 1 km l'un de l'autre, sont fortement disputés, on reprend, c'est une bataille tout à fait acharnée. En même temps, l'empereur a réussi à ramener d'autres troupes, Bertrand sur la droite de l'armée française, MacDonald sur la gauche, et quand Ney a repris les villages, Blücher repart à l'attaque, soutenu par York et Berck. Donc, bleu clair pour les Français, bleu foncé pour les Prussiens, vert pour les Russes. Hein. Donc, j'essaye de tout petit peu rappeler les uniformes pour en sortir plus facilement. Le rouge, ça indique une retraite. La contre-attaque de Blücher repousse Ney jusque dans Kaya. Et alors, Napoléon fait donner l'artillerie du 6e corps de Marmont d'un côté et fait charger la cavalerie de la tour Maubourg de l'autre côté pour prendre les Russes et les Prussiens en tenaille. À 18h, ça donne cela et l'empereur lance la grande attaque après avoir affaibli suffisamment les troupes ennemies. L'attaque de la garde, principalement la jeune garde, soutenue par Marmont, Bertrand et MacDonald, tandis que la tour Maubourg s'est remis derrière les troupes, et ça provoque, ça casse le dispositif prussien, enfin allié, et ils sont obligés de se replier. Une petite contre-attaque, mais très modeste, des Prussiens en fin de journée, mais c'est une victoire. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'empereur n'a quasiment pas de cavalerie. Pour exploiter des victoires, il faut de la cavalerie, il n'en a pas, donc c'est une victoire finalement qui lui rapporte peu. Quelques tableaux de Karl Röchling. Je vous laisse lire et je vous laisse admirer les tableaux. Vous voyez, c'est au printemps, début mai. Une très grande perte pour les Prussiens, c'est Scharnhorst. Scharnhorst est légèrement blessé, vous voyez, il a simplement la jambe un peu blessée, il est debout, il n'a pas de grand problème, mais c'est un grand stratège, c'est aussi un bourreau de travail, il ne va pas soigner sa blessure, il va continuer à participer à tous les conseils des guerres, et il va être épuisé, la gangrène va se mettre dans sa blessure, et il va mourir peu de temps, enfin, 15 jours, 3 semaines plus tard. Alors ici, vous avez ce monument-là, à l'emplacement où il a été blessé, dans le village de Großgürschen. Et alors, ceci, bon, les Belges connaissent quand même certainement, et bien c'est ce qu'on appelle la pyramide, c'est pas une pyramide, mais ça s'appelle comme ça, pyramide de Schinkel, qui est donc le grand architecte, ce sera l'emblème qui sera placé dans toutes les grandes batailles, tous les grands champs de bataille prussiens, avec simplement la date et le nom du lieu qui diffèrent. Vous voyez aussi au sommet la croix de fer. Eh bien, c'est le même architecte qui dessinera la croix de fer, médaille décernée à partir de 1813 et qui portera jusqu'au bout en 1945, au revers, la date de 1813, date de création. Alors, un magnifique monument qui a malheureusement été détruit, mais qui a été reconstruit à l'identique en 99, après la chute du rideau de fer, et après la déroute des communistes. N'oublions pas, c'est également une œuvre du même architecte, mais Léopold de Hesse-Hombourg combattait dans les rangs français. Faut pas oublier, donc, c'est la famille qui a commandé ce magnifique monument et on peut le retrouver comme il a été créé au XIXe siècle. Alors, ceci un petit clin d'œil en passant, un peu partout en Allemagne où l'empereur a mis les pieds, il y a un souvenir. C'est pas toujours pour dire du bien, mais au moins, ici, cette pierre a été témoin d'une époque qui nous a apporté de grandes douleurs, mais elle a été témoin de du véritable âge d'or de l'Allemagne. Voilà, ici, à Waldheim, près de Schönberg, où Napoléon est passé le 6 mai. Alors, on passe ici maintenant à la bataille de Königswartha. Double bataille, Königswartha, il y en a deux. La première, les Italiens, 15e division Pierry du corps de Bertrand, se font vraiment battre à plate couture par les Russes de Langeron et de Barclay. 2000 tués, deux généraux tués, blessés, pardon, 800 prisonniers, quand même significatif, et deux canons. Et alors, il y a l'autre bataille de Königswartha, qui est la bataille de Leichberg, donc le mont du chêne, qui a lieu plus ou moins à la même, qui a lieu à la même date, et qui voit s'affronter Lauriston et York et Barclay. Vous voyez, Barclay des deux côtés, évidemment, il a une très grande armée. Et là, c'est une bataille dure, mais là, les Français restent maîtres du terrain. Alors, cette bataille, elle est comme ceci. Königswartha ici. Donc, ici, les Italiens sont battus par les Russes. Les Prussiens arrivent de là, Lauriston arrive de là. Les Prussiens progressent, prennent Weissig et le Eichberg, mais les Français s'y trouvent. Ils attaquent et les Français sont repoussés, donc le Beauclerc, les Français. Lauriston ne se laisse pas faire, il envoie des troupes, mais il se fait attaquer de flanc par les Russes. Les Russes de Barclay, dont on a vu tout à l'heure qu'ils avaient pris Königswartha au détriment des Italiens. Les Français prennent position sur l'Eichberg et gardent, et les Russes et Prussiens sont repoussés. Donc c'est clairement une victoire française. Magnifiquement préservée, ici vous avez l'axe de l'attaque des troupes de Lauriston qui ont repris l'Eichberg qui se trouve ici, et ici c'est le point de vue des Prussiens qui étaient sur la montagne et qui voyaient s'approcher les Français venant de Weissig. Königswartha, de là venaient les Russes. Et alors ici, le grand monument qui date aussi du centenaire. Par contre, ce qui est moderne, c'est ces petits totems. Un qui représente l'empereur, alors que l'empereur n'a jamais mis les pieds. L'autre représente Blücher. Et il y en a encore quelques autres qui représentent des uniformes de diverses unités. On arrive à Bautzen, dernière grande bataille de la campagne de printemps. Donc, vous voyez l'aile de nez, l'empereur et la garde, et en face les alliés. Une grande bataille, 100 000 hommes de part et d'autre, pertes similaires. C'est une victoire, mais ce n'est pas décisif non plus, mais c'est une victoire nette quand même. De nouveau, bon, pas dans le nom cette fois-ci, mais c'est le lieu également de la bataille d'Hochkirch de Frédéric II en 1758. Bon, ici, Napoléon a réussi à rassembler pas mal de troupes, et il a en face de lui Alexandre qui commande en personne. Par contre, Frédéric Guillaume II est beaucoup plus intelligent, il laisse ça à Blücher. Alors, la bataille ici, donc ce sont des cartes britanniques du XIXe siècle, elles sont bien plus belles en réalité. Sur mon site, vous pourrez les découvrir. Il y a parfois quelques petites erreurs, mais elles sont librement disponibles sur Internet. Vous pouvez les retrouver via mon site. Bon, aussi, un gros problème, elles ne sont pas toujours bien orientées. Moi, j'aime bien quand le nord est en haut de la carte, eh bien, Ellis ne fait pas ça, le nord est par là. Quelques endroits importants, le Napoléonberg, ici, le Monarchenhügel, où étaient Alexandre et François et Frédéric Guillaume. Alors, moi, ça me fait quand même rire. L'emplacement, et c'est à plusieurs endroits où Napoléon prend place, c'est la Napoléonsberg. Par contre, où les monarques alliés se mettent, c'est la Monarchenhügel. Rien que dans le sens. Pour Napoléon, il faut une montagne. Pour les monarques, bon, une colline, ça suffira. Et c'est les Allemands qui utilisent ce terme. Hein. Kreckwitz, on va en parler, ça se situe là. Et Würschen, où était le quartier général allié. J'en profite pour montrer un beau tableau de Victor Huin, peintre alsacien du début du XXe siècle, né passant en revue ses troupes au matin de la bataille de Bautzen. Bautzen va durer 2 jours. Au début, la première journée, Marmont et Oudinot attaquent. La division Compan, qui fait partie du corps de Marmont, prend la ville de Bautzen. Et ensuite, c'est l'attaque générale de Soult. Marmont continue, MacDonald et Oudinot progressent également. Donc, soirée de la première journée, les Français ont bien progressé. Niederkaina, c'est là que l'empereur avait pris place. Poursuit les combats. Le très tôt le matin, 4h30, une attaque des Russes de Miloradovitch. mais contrée par MacDonald et Oudinot qui attaquent, suivie d'une attaque de Ney et de Lauriston. Lauriston est sous le commandement de Ney et il progresse bien. Bon, Ney a un chef d'état-major qui s'appelle Jomini, qui sera un très bon théoricien, mais qui, à part le fait qu'il va passer à l'ennemi, pour une raison plus ou moins valable, là n'est pas la question, il était suisse, donc il n'a pas vraiment trahi. Le Suisse aurait dû être neutre, vous me dites, vous allez me dire. Mais Ney ne va pas faire preuve d'assez d'initiative, d'allant, et si Bautzen n'est pas une grande victoire décisive, c'est un peu la faute de Ney qui ne va pas pousser. Et aussi, évidemment, ne jetons pas tout sur ce malheureux, l'absence et le manque de cavalerie ne va pas permettre d'exploiter la victoire. Blücher et Kleist résistent au centre, aux environs des hauteurs de Kreckwitz. Soult attaque de front et Maison attaque Kleist du nord vers le sud. Alors, à partir de 11h30, vous avez ceci. Marmont et Mortier continuent à progresser. Ney et Lauriston progressent, mais pas assez rapidement. Et Blücher et Kleist s'en rendent compte et ils font leur bagage et se replient à temps. Si Ney, c'est ici, si Ney avait été plus actif et avait fermé la porte, Blücher, Kleist et leurs armées étaient prisonniers. Au sud, MacDonald et Oudinot continuent à progresser et finalement, comme les Prussiens se sont retirés, les Russes sont obligés de faire de même. Miloradovitch plie bagage. Napoleonsberg à Niederkaina, donc le point de vue de l'empereur sur le champ de bataille. Les hauteurs de Kreckwitz, dont Blücher a dit que c'était les Thermopyles de l'Allemagne, que le sort du pays en dépendait. Les soldats de Blücher ont pu s'abriter derrière ces rochers. Donc, et en dessous, vous voyez le champ de bataille à partir des hauteurs de Kreckwitz. La Monarchenhügel à Jenkwitz, donc où Alexandre et Frédéric Guillaume avaient pris place. Petit monument assez curieux à Purschwitz et le château de Würschen, qui était le quartier général allié. Il y a quelques tombes, entre autres, enfin, l'une date de 1853, où on a rassemblé les corps au cimetière de Bautzen, et l'autre date de 1913 pour le centenaire dans un cimetière désaffecté. Alors, on arrive bientôt à l'armistice, mais il y aura d'abord Reichenbach, mais terrible en perte pour les Français, et Napoléon dira tout ça pour si peu, même pas un prisonnier à me mettre sous la dent, enfin c'est pas le cas, et en fait il sera très déçu. Normalement, quand on a une victoire, on progresse, on rafle des prisonniers, il faut la cavalerie pour cela, et ici, l'armée française, bon, il y a la cavalerie de la garde, il y a l'automobourg, on progresse, mais l'ennemi est beaucoup plus coriace qu'on ne croit. Et vous voyez, beaucoup de pertes, mais surtout, Duroc, grand maréchal du Parlais et ami personnel, un des seuls amis intimes de l'empereur, est tué, est blessé mortellement. Kirchner, du général du génie, est tué. Bruyère, général de cavalerie, est blessé mortellement. Reichenbach et son champ de bataille, petit monument. Et ici, Napoléonsbrücke. Vous voyez, dans ce coin-là, vous trouvez des trucs de Napoléon un peu à tous les coins de rue. Donc, ce pont, normalement, effectivement, a été emprunté par l'empereur. Et alors, une stèle qui indique où l'empereur a suivi le combat. Mais Reichenbach restera dans le souvenir à cause de Markersdorf. Ici, ça a eu lieu. Ici, il y a le monument, mais il est caché par les arbres qu'on a plantés à côté. Voilà la scène. Elle est relativement fidèle, à part que la ferme devrait se trouver ici. Et là, Victor Huet ne l'a pas représentée. Vous voyez, Duroc, mortellement blessé au ventre, Kirchner, tué sur le coup. Et voyant ça, on évacue celui qui était avec eux, ça s'est passé, c'est l'empereur. Et vous voyez son petit chapeau là-bas, on le met à l'abri. L'empereur va donner une très forte somme au curé du village pour faire ériger un monument à la mémoire de Duroc, mais là, l'argent sera confisqué par les Russes. Et ce n'est que bien plus tard qu'on mettra quand même ce, ce cube avec les noms de Duroc et de Kirchner. Bon, c'est écrit à l'allemande, hein, c'est Kirchner normalement. Duroc est emmené à la Hunsbacher Gut, donc dans cette grande ferme, tandis qu'on enterre Kirchner ici, à l'entrée. Il va agoniser pendant un jour, l'empereur viendra à côté de lui, viendra pleurer dans cette maison. Donc vous voyez la ferme, la fenêtre de la ferme, c'est cette fenêtre-ci. Et plus tard, en 96, on placera cette plaque. Bruyère, très beau général de cavalerie, mortellement blessé également. Sera emmené à Görlitz, l'empereur viendra le voir, c'est pour ça que vous trouvez cette plaque. Ici, Görlitz, donc sur la frontière actuellement, sur la frontière polonaise, vous voyez là les bâtiments historiques, on les restaure, on met les moyens. On est en Allemagne, ce n'est pas comme la région Wallonne, parce que vous savez sans doute que le fonctionnaire responsable de la région Wallonne a donné son accord pour la destruction de la ferme des Quatre Bras, ferme historique de la bataille du même nom. Et ben voilà la différence de mentalité. Alors, après Bautzen, Reichenbach, on continue, on fait reculer l'ennemi. Bataille d'Einau, et ensuite l'armée, la grande armée va continuer, les Russes vont se replier au sud. Comme les Alliés reculent, les Oudinots vont en profiter pour faire une remontée jusque à, enfin, direction de Berlin, mais là il va rencontrer Bülow, à Hoyerswerda il va le repousser, et à Lukau il sera lui-même repoussé. Ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours des raids de cavalerie. Et alors Schwarzenberg, lui, il est toujours en train de fourbir ses armes en Autriche. Alors Hainau, maintenant en Pologne, en fait plus exact c'est Michelsdorf, petit village, une partie du col Lauriston, en fait la division maison. C'est une catastrophe parce que ça aurait été facilement évitable en ce sens que, vous voyez, les pertes sont quand même sérieuses comparées à celles de l'ennemi. En plus, ils prennent ce canon, mais ils sont tellement surpris d'avoir tellement de canons, ils ne savent pas tout emporter, ils n'en emportent que 11. 11 sur les 18 quand même. Alors, ça a lieu ici, Michelsdorf, c'est le petit village en contrebas, que vous voyez là. La division est installée ici. Il y a bien quelques cavaliers qui sont de faction là-haut. En fait, donc, c'est pris du même endroit, là, vers le village, et ici, dos au village. Vous voyez cette crête qui ne permet pas de voir à plus de 200 mètres. Eh bien, la cavalerie de la brigade Haute-Silésie de Seaton va en profiter et va tout balayer sur son passage et prendre beaucoup de prisonniers, tout simplement parce qu'on n'a pas bien mis de poste de garde. Des choses évitables et qui auraient été inconcevables dans la grande armée, même encore en 1809. Hein. Alors, Liegnitz, Hoyerswerda, Oudino repousse Bülow. Bon, Glogau, ici, j'en ai parlé. Fin du premier siège. Le recul des alliés permet de dégager. Et donc, fin du siège. Et alors, bataille de Lukau. Oudino va très mal mener sa barque. Il ne va pas amener ses troupes à temps. Il ne va pas grouper, elles vont arriver au compte-gouttes, ce qui est la pire des choses, quelques unités éparses, tandis qu'il va en plus donner le temps à Bülow de fortifier la ville et de bien préparer ses défenses. Et vous voyez que même si les Français sont supérieurs en nombre, ils seront également supérieurs en nombre en perte, parce que l'attaque est très mal menée et Oudino doit se replier. Alors ici, la tour. Les murailles sont ici, en fait, la tour de Lukau, et vous voyez la plaque ici. Et alors, cette plaque célèbre la véritable fraternité d'armes des armées prussiennes et russes. Vous pouvez deviner vers quelle époque cette plaque a été posée. Je crois que ce n'est pas difficile de le deviner. Et on trouve exactement ce terme sur plusieurs monuments, qui ont été plaques et monuments qui ont été placés pendant l'époque communiste. Un monument beaucoup plus ancien, qui rappelle la victoire de Bülow. Et alors ici, juste pour le plaisir, la Napoleon Häuschen, la petite maison de Napoléon, ce n'est pas un conte, mais donc Napoléon passera là la nuit du 20 au 21 juillet, et même si c'est en plein juillet, il fera très froid, et Napoléon se plaindra et demandera une bouillotte. Et cette bouillotte est toujours conservée au musée de la ville. Alors, la dernière bataille, en fait, elle a lieu déjà après l'armistice, mais je vous ai dit que les Prussiens mènent, et les Cosaques aussi, mènent des raids très loin derrière, puisque les lignes étaient en fait déjà ici, très loin derrière les lignes françaises, et Napoléon en a marre. Ça veut dire qu'il va faire inclure dans les accords d'armistice que c'est en fonction des lignes, la ligne de front, même si on ne parle pas le terme. Ça veut dire aussi que toutes les troupes ennemies derrière la ligne française ne bénéficient pas de l'armistice. Et il va en profiter pour liquider Lützow. Et alors là, on va envoyer Fournier qui deviendra plus tard Fournier Sarlovez, je suppose que vous connaissez. C'est lui qui a inspiré le roman et puis le film Les Duellistes. Très bon film. Fournier est un anti-napoléonien convaincu, mais enfin bon, il sert quand même. Norman, c'est le chef de la cavalerie wurtembergeoise, qui sera le premier à déserter et à retourner sa veste à Leipzig, mais ici il est encore du côté français. Ils vont fondre avec 2000 hommes sur le corps de Lützow qui a un peu la blague inverse, et ils vont être balayés. Il y aura 360 tués, blessés et prisonniers. Lützow échappera de justesse. Voilà le monument qui commémore l'événement. Ils aiment bien les cubes, comme vous voyez. Et alors également, un autre sera gravement blessé. Alors, vous ne connaissez peut-être pas, mais Theodor Körner, c'est vraiment, à l'époque, c'est une vedette. C'est Johnny Hallyday multiplié par 10. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est le jeune, enfin étudiant, intellectuel, qui se met au service de la patrie, et en plus, c'est un très grand poète, connu poète romantique. Donc, enfin, romantique, c'est peut-être un peu tôt, mais enfin bon, et surtout nationaliste. Ça va être gonflé au XIXe siècle, encore plus tard également, et lui, il fait partie du corps de Lützow, il est blessé, gravement, et comme cette plaque l'indique ici, donc ici, Theodor Körner a passé, ici était couché donc dans la nuit du 17 au 18 juin. Lui, qui a été blessé dans le combat de Kleinskorlop, le poète de la liberté, Theodor Körner. Et quand on est gravement blessé, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on saigne, on essaie de se faire soigner. Lui, il compose un poème. Ça, on est poète ou on ne l'est pas, et donc ce sera le célèbre poème « Die Wunde brennt, die bleiche Lippen beben ». Et c'est la pierre sur laquelle il a composé ce poème, qui est mise là en monument, sur un socle. Lützow lui-même, Lützow, vous le connaissez peut-être, il a participé à la campagne de 1815, il sera fait prisonnier à Ligny. Lützow lui-même doit s'échapper, donc je vous dis, il n'y a qu'une quarantaine sur les 400 qui vont réchapper. Il va sonner, il va demander à être abrité, et voilà, ici, à cette porte, Lützow a vainement frappé pour avoir de l'aide, mais elle était fermée sur ordre des Français. Donc c'est la plaque qui se trouve encore. Je ne sais pas si ça a été mis là pour stigmatiser après coup les gens, sans doute que ça a été placé beaucoup plus tard, mais c'était vraiment resté dans la mentalité des gens du village. Bon, alors on arrive à l'armistice de la campagne de printemps. Vous avez trois villes, Pleswitz, l'armistice de Pleswitz, c'est donc ceci. Vous avez Reichenbach. Attention, ne confondez pas ce Reichenbach avec le Reichenbach qu'on a vu tout à l'heure. Celui-ci est en Pologne, tandis que l'autre est ici, est encore en Allemagne maintenant. Il y a 170 km entre les deux, mais beaucoup d'historiens confondent. Hein. Ce n'est pas la même chose. Et alors ici, Trachtenberg, je vais en parler. L'armistice de Pleswitz, maintenant à Piekalkowitz, le 4 juin, Napoléon accepte, mais veut un congrès. Les hostilités sont suspendues jusqu'au 20 juillet, ensuite c'est prolongé jusqu'au 10 août. Et alors le 29 juillet ça, s'ouvre le congrès de Prague. Mais les alliés font bloc et exigent directement dissolution du duché de Varsovie, rétablissement de la Prusse, restitution des provinces illyriennes et suppression de la Confédération du Rhin. Vous voyez ce que chacun, russe, autrichien et prussien, ont demandé là-dedans. Hein. Mais entre-temps, ou auparavant, Metternich s'était entendu avec le SAR pour faire traîner. En fait, ils n'ont absolument pas l'intention de négocier. Et dès juin, les coalisés se sont mis d'accord pour démanteler l'empire de Napoléon. Alors Napoléon a dit, après coup, l'armistice a arrêté la progression de mes victoires, ce qui est tout à fait vrai. Mais alors je répondrai, sire, pourquoi l'avez-vous accepté? Évidemment. Alors, en même temps, on a la convention de Reichenbach, deux conventions, en gros, l'Angleterre sort son carnet de chèques pour tout le monde qui veut combattre Napoléon. Second traité, l'Autriche veut aussi sa part du gâteau. Et c'est le premier pas dans l'entrée de l'Autriche dans la négociation. Alors, négociation Napoléon-Metternich. Metternich exige tout ceci, et vous voyez qu'à part quelques modifications, c'est les mêmes exigences que les autres alliés. Donc, ils savent très bien que Napoléon va accepter. Eh bien, Napoléon, on dit toujours qu'il est intransigeant, qu'il ne veut pas. Napoléon accepte ces conditions. Ça va se reproduire au mois de novembre. Il va accepter, et pourtant, on va, quand il accepte, faire monter les enchères. Donc, ne dites pas que Napoléon ne recherche que la guerre, c'est les autres qui cherchent à le détruire, en fait. Donc, l'Autriche déclare malgré tout la guerre. Alors ici, vous avez le palais Marcolini à Dresde, où Napoléon a résidé pendant l'armistice, et vous avez cette plaque. Et alors, quand j'y suis passé, il y avait un petit bouquet de roses séchées, en dessous de la plaque. Donc, Napoléon a des admirateurs en Allemagne, si vous en doutiez. Alors, la doctrine de Trachtenberg, c'est autre chose. Trachtenberg, c'est Smigrotte maintenant. À quelle date remonte-t-elle? Les Prussiens diront, ah, c'est une idée de Scharnhorst. Scharnhorst, au mois de mai, d'ailleurs, pendant un de ses conseils de guerre qu'il a tenu, étant blessé, avec Radetzky, qui n'est pas connu que pour sa marche, mais qui était chef d'état-major de Schwarzenberg, l'idée remonterait à là, à cette date. Après, il y a un conseil de guerre à Trachtenberg, où Bernadotte est présent, et alors évidemment, certains diront, c'est une idée de Bernadotte, avec Radetzky et Schwarzenberg. Je ne sais pas quel Prussien était présent, ou bien ils ont fait ça entre eux, et la formulation est horriblement compliquée, mais je vous ai simplifié cela en disant, la doctrine de Trachtenberg, c'est attaquer les lignes de communication de l'ennemi, donc de Napoléon, et battre les généraux de Napoléon individuellement en évitant de l'affronter personnellement avant qu'il ne soit suffisamment affaibli pour pouvoir le battre. Bon, ils ont réinventé l'eau chaude, hein, parce que Kutuzov, c'est exactement ce qu'il avait dit en 1812. Donc la doctrine de Trachtenberg, Kutuzov y pensait déjà, et l'avait efficacement appliquée. Hein. Et donc, regardez cela différemment. Le petit cours que je vous ai donné tout à l'heure, c'est la doctrine de Trachtenberg, c'est l'application des principes de la guerre napoléonienne contre lui. C'est aussi simple que ça. Ils ont quand même mis un certain nombre d'années à s'en apercevoir. Alors, ça je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est les batailles de l'été et de l'automne, avant Leipzig, puis Leipzig, et puis après Leipzig. La carte, très important pour situer le tout. Donc ici, Pleswitz, Reichenbach, Trachtenberg, Krusin, Bunzlau, Pirna, Löwenberg, Goldberg, Großbeeren, Dresde, Lackersbach, Hagelberg, Kulm, Glogau, deuxième siège, Dennewitz, Peterswalde, Wartenburg, Leipzig et Leipzig. Voilà. Alors ici, c'est la même chose. Ici, c'est un peu une illustration de la doctrine de Trachtenberg. Battre les maréchaux de Napoléon individuellement, couper ses lignes de communication. Mais évidemment, ils ont oublié qu'ils ont en face d'eux Napoléon. Et donc, ils veulent couper ses lignes de communication à Dresde, prendre les dépôts, etc. Et Napoléon rapplique avec toute son armée. Et ce sera la dernière grande victoire de Napoléon à Dresde. Alors, en chiffres, la grande armée, c'est quand même 430-450 000 hommes. Napoléon, Eugène, bon, les chiffres vont différer parce que parfois j'inclus l'Italie, parfois je n'inclus pas l'Italie, etc. Parfois on compte les Danois, parfois on ne les compte pas, tout ceci. La grande armée, je ne passe pas en revue parce que c'est ce qu'on a vu, donc c'est exactement la même chose, mais les chiffres sont différents, il y a beaucoup plus de monde. Ney va céder son commandement à Souan et MacDonald à Gérard, parce que eux seront promus à, pas un grade, mais une fonction supérieure, commandant d'armée, même si le terme n'existe pas, parce qu'ils vont commander plusieurs corps d'armée. Corps de cavalerie, vous en avez cette fois-ci 5, et en prime, vous avez le 5e corps bis, vous en avez un 6e qui porte le nom de 5e. Alors, petite remarque ici, dans la grande armée à cette époque, 74% pour l'infanterie, 16% cavalerie et 10% pour l'artillerie. Ça, c'est des chiffres plus ou moins. Bon, je mentionne la source. Alors, sur les autres théâtres d'opération, vous avez Augereau, Rapp, Davout. Vous voyez, Davout, c'est quand même 40 000 hommes, hein, presque. En Italie, parce que Eugène a été libéré de son commandement, puisque Napoléon est venu en personne, et il s'occupe de l'Italie, des armées, des corps français, et alors quand même des Italiens aussi. Armée prussienne, vous avez, ici je les donne par secteur, et vous allez voir que dans chaque secteur, il y a des Prussiens, des Autrichiens, des Russes et des Suédois parfois. Hein. Donc les Prussiens en Silésie, c'est ça. Les Prussiens dans le Brandebourg, c'est ça. Ben ça, il n'y a rien de péjoratif. Hein, c'est... Bon, Lützow s'est bien remis, hein, vous voyez, les volontaires affluent. Hein, ça, il n'a pas besoin de mettre des annonces dans les journaux. Les sièges, Kustrin, Stettin, Danzig, Logau. Au total, voilà, pièces d'artillerie, donc. L'armée russe, à la mi-août, parce que souvent c'est compliqué, certains donnent les chiffres à telle date, d'autres à telle date. Bon, globalement, bon, ça ne revient pas à quelques unités. En Silésie, les Russes ont cela. Langeron, émigré français. Saint-Priest, émigré français également. C'est tellement compliqué chez les Russes que, par exemple, le 8e corps est sous le commandement du 6e corps. Hein, ça c'est... Alors, Wittgenstein, dans le Brandebourg, ils ont tout ça. Il y a des troupes russes rattachées au 3e, 4e corps prussien. Bon, à un moment, ce sera beaucoup plus que cela, d'ailleurs. Dans le Mecklembourg, l'armée de Walmoden, on va en parler. Et alors, des troupes de deuxième ligne, l'armée polonaise de réserve, c'est Benningsen qui va arriver, 60 000 hommes, hein, c'est pas négligeable. Et les troupes qui font le siège des villes. Danzig, 29 000. Vous voyez que les Prussiens ont également des hommes à Danzig, si j'ai bien vu, 8 000. Donc finalement, 40 000 dedans, 40 000 dehors. Dans le Mecklembourg, ça on a vu, total. L'armée autrichienne, l'armée de Bohême, la plus importante, avec quelques corps supplémentaires et quelques garnisons, Königgrätz, qui sera la grande bataille en 1866, Josefstadt, total 220 000. L'armée suédoise, petite, 23 000 hommes dans Brandebourg, c'est un peu normal, hein, c'est dans le nord, également dans le corps de Walmoden, dans le Mecklembourg. La garnison de Stralsund, au total 30 000 hommes environ. Autre troupe, on l'oublie très fort, il y a un corps anglo-allemand. Le contingent du Mecklembourg, total des armées en campagne, c'est ça, plus de 500 000 hommes, plus de 650 000 hommes pour le total général, donc également les troupes en arrière, les troupes de siège, etc., etc. Première bataille ici, Davout. Alors là, évidemment, je dois quand même dire que c'est une horrible, de nos jours, on dirait une erreur de casting, de Napoléon de mettre Davout au 13e corps sur un front tout à fait secondaire, de garder avec. Il sait, bon, il n'aimait pas Davout pour des raisons personnelles, enfin, bon, on ne sait pas exactement pourquoi, parce qu'il était sans doute un peu jaloux, et il sait qu'il a pleine confiance en Davout, aussi bien politiquement que militairement, donc il peut le laisser tout seul, il sait que Davout mènera bien sa barque, mais Davout est tellement précieux qu'il aurait justement dû le garder et le mettre à la place d'un Ney, parce que Davout sait manier un corps, deux corps, trois corps d'armée, Ney en est tout à fait incapable, et Davout va faire ce qu'il peut, mais il va devoir, par la force des choses, se laisser enfermer dans Hambourg, et il ne servira strictement à rien. Napoléon fera la même erreur en 1815. Bon, Lauenburg, victoire de Davout. Davout qui progresse pour rejoindre Oudinot. Oudinot qui veut s'attaquer, enfin qui a l'ordre de s'attaquer à Berlin. Voilà le déploiement des troupes. Walmoden, dont je vous ai parlé, dans le nord. Ici, Bernadotte. Benningsen qui est encore en train de préparer ses troupes, qui est encore loin en Pologne. Ici, Blücher et Schwarzenberg. Vous voyez ici les monts métalliques, le mont de Lusace et le Riesengebirge. Donc vraiment, les Autrichiens sont bien protégés. Hein. Côté français, Davout, Oudinot, Napoléon et la Grande Armée. Ici quand même des troupes de couverture. Là, Augereau qui forme son armée. Et finalement, les Bavarois qui sont encore du côté français. Ici, Bunzlau, on a déjà vu tout à l'heure. Et puis, ce sera la bataille de Pirna, Löwenberg, Goldberg. Alors ici, Bunzlau, vous voyez, donc Boleslavietz, où Kutuzov est mort. Il y a le 11e corps de Sacken, face à lui le 3e et le 6e français, et derrière le 2e de cavalerie. Voilà, le 3e et le 6e, Ney et Marmont vont attaquer. Sacken va devoir se replier. Au sud, il y a l'armée de Silésie, donc Blücher, composée du 1er et du 6e corps, qui sont également poussés par le 5e de Lauriston et le 11e de MacDonald. Et ça se donne les batailles de Krusin et Bunzlau, bon, pas très importantes, c'est des mouvements de troupes. Un petit monument quand même ici, érigé par le colonel d'un régiment, un colonel prussien, à un de ses hussards russes qui servait sous ses ordres, et il a érigé ce monument où ce hussard russe a été tué, et en plus, 50 ans plus tard, son fils est venu le restaurer. C'est quand même comme on a transmis cela, ça devrait vraiment être quelqu'un d'important pour la famille. Löwenberg, qui s'appelle maintenant Lovetslaski, Lauriston et MacDonald contre Blücher. Et alors c'est très difficile de situer exactement le nombre de pertes parce qu'elles sont toujours regroupées avec la bataille de Goldberg qui se trouve, je vous ai montré le petit dessin tout à l'heure, on regroupe les deux batailles qui ont lieu sur 3 jours. Je vous montre ici quand même ce beau dessin. Et à Löwenberg, ici, Napoléon est très aimé en Pologne et la maison où il a passé sa... Les 3 nuits, donc du 21 au 23, a été détruite, mais on a érigé sur la place cette petite stèle avec son profil. Alors ici, à Löwenberg, et vous voyez que le bâtiment est parfaitement préservé, c'est plus ou moins sous le même angle. Alors ici, on continue. Goldberg, 2 jours plus tard, Slotoria, maintenant... Blücher contre Lauriston, Gérard, etc. Gérard commande le corps en l'absence de MacDonald, mais il ne commande pas effectivement parce que tout est sous les ordres de Lauriston, donc les trois unités. 30 000 hommes. Finalement, on peut dire que ces deux batailles, c'est une victoire de l'armée de Napoléon, quand on compare les pertes, et... Surtout la bataille de Goldberg sera une défaite pour Blücher. Mais n'oubliez pas ici, très important, les premières désertions ont lieu, les deux régiments de hussards westphaliens désertent. C'est la première fois que ça se passe pendant cette campagne. Donc ici, il y a eu très forte bataille sur les hauteurs du Wolfsberg, qui est une montagne à côté de Goldberg, et vous voyez ici de nos jours, malheureusement, c'est une carrière, et la carrière est lentement mais sûrement en train de bouffer entièrement la colline. Vous voyez là son état d'origine et ce qu'il en reste. Alors Pirna, petite défaite française, pas tellement fondamentale. Donc Pirna se trouve là. Pirna, c'est la porte vers la Tchéquie, donc vers l'Empire austro-hongrois. Enfin, hongrois, pardon. Autrichien, pardon. Alors, prochaine bataille, 23 août, Großbeeren, où Oudinot, qui progresse vers Berlin pour prendre Berlin, est contré par Bülow et Tauentzien et les Russes de Wintzingrode. pertes sont en mort et blessés, vous voyez, c'est plus ou moins la même chose. Bon, il y a ici près de 100 000 hommes contre 60 000, ça fait déjà là les pertes, mais regardez, 1 500 prisonniers et surtout 10 000 déserteurs. Les Bavarois et beaucoup d'Allemands commencent déjà à se tirer. Bon, ils ne retournent pas leurs armes en pleine bataille, comme j'ai encore lu dans un livre récent, écrit par un monsieur Pata, pour ne pas le... pour ne pas le nommer, c'est consternant, parce qu'il dit qu'il y a 10 000 Bavarois qui retournent leurs armes contre les Français. C'est tout à fait faux, c'est tout à fait faux. Bon, il y a beaucoup de déserteurs, etc. Mais bon, là, ce n'est pas... Alors ici, cette bataille, qui dure de 7 à 20 heures, commence par l'attaque de Bertrand sur Blankenfeld, puis à 9 heures, Reynier attaque Grossbeeren. Il envoie la division Durutte vers Rulsdorf, mais Durutte est contré par les cavaliers suédois et par l'infanterie prussienne, les Suédois en jaune. Ici, les Saxons, qui composent une part importante du corps de Reynier, ne déserte pas, mais il panique et il recule. Évidemment, c'est très embêtant. Pendant ce temps-là, Oudino, qui commande le tout, arrive avec son corps, donc il commande à la fois les trois corps plus le sien. Il envoie la division Guimino. Guimino, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il a joué un rôle important dans la bataille de Waterloo. C'est lui qui commence en fait la division Jérôme. Napoléon sait très bien que Jérôme n'est pas tout à fait capable de commander, donc son chef d'état-major, Guimino, est en fait le véritable commandant de ce régiment. Guimino est donc ici dans une division d'Oudino. Il attaque pour soutenir Reynier, mais il se fait contrer à 15 heures par les Suédois de Stedingue. Les Français poussent malgré tout et contrôlent Grossbeeren, donc ça ne va pas si mal. Il y a de très forts combats de 16 heures à 20 heures. Et puis finalement, Oudino se rend compte qu'il ne percera pas et que ça ne sert à rien d'insister et il ordonne le repli. Donc, la prise de Berlin échoue. Le grand monument, qui est une sorte de tour lanterne avec un musée. Ici, de nouveau, le même monument dans ce cimetière. Donc, c'est le cimetière de Grossbeeren, comme vous le voyez sous le dessin. Alors ici, une partie du champ de bataille avec le monument à Townsend, avec cette inscription « Unsere Knochen sollen vor Berlin bleichen »« Nos ossements blanchiront devant Berlin »« Nicht rückwärts »« Pas question de reculer » voilà. Bon, après Grossbeeren, Dresde. Dresde, une bataille en deux jours, 26 et le 27. Premier jour, Napoléon 70 000 hommes, les Alliés en 150 000. Grosse différence, et pourtant, Napoléon arrive avec, donc je vous ai montré tout à l'heure, que les Alliés veulent en fait couper les lignes de communication de Napoléon, croyant qu'il n'est pas là et voulant prendre les réserves qui sont à Dresde, mais Napoléon, au propre comme au figuré, arrive au triple galop. Vous voyez là, devant la Schlosskirche, que vous voyez ici, et ce qui est comique, c'est que là, il y a dans le sol, il y a un pavé marqué N à l'endroit où Napoléon s'était mis quand il a vu défiler, après avoir descendu de son cheval, il se met là et il voit ses troupes qui se dirigent vers la bataille de Dresde. Et donc cet endroit est toujours marqué par un pavé. Quand j'y étais, pour la petite histoire, il y avait des travaux et je me suis dit, zut, il ne faut pas penser à remettre. Eh bien oui, en Allemagne, on l'a remis. Alors ici, le 25, les Alliés arrivent, entourent la ville, je dis bien le 25, Napoléon n'est pas là. Mais le 26 au matin, il arrive avec sa garde et mortier et arrive dans la ville. Les Alliés continuent à avancer. À 15 heures, ils sont aux portes de la ville. À 17 heures, les Français ont réussi à se mettre en place. Napoléon envoie la jeune garde dans le Grosser Garten. Ici, à 17 heures, il envoie donc en même temps Murat sur le flanc gauche des Alliés. Ce sera une des dernières belles charges de Murat. Ça casse l'élan des Alliés qui doivent se replier. On en reste, bon, une dernière petite contre-attaque en fin de journée, mais pas importante. On en reste là pour le 26. Bon, ici, le Grosse Garten, donc un grand jardin. Le lendemain, Napoléon a eu 30 000 hommes en renfort. Les alliés, rien. Évidemment, ils ne s'attendaient pas à rencontrer Napoléon. Et ce sera une, la dernière belle grande victoire, parce que quand même, on occasionne 10 000 morts et blessés à l'ennemi, et surtout, on lui prend 20 000 prisonniers. Ça, c'est vraiment, c'est le genre de victoire qui peut faire une décision. Mais, bon, je signale au passage ici, le deuxième corps autrichien est commandé par un monsieur Chastelaire de Courcelles, qui est donc né dans le Hainaut. Alors, le 27 commence par à 7 heures une préparation d'artillerie qui réveille les alliés, préparation d'artillerie française. Ensuite, à 9 heures, on lance une grande attaque. Gouvion, à 11 heures, attaque par là, et Ney et Mortier essayent de tourner l'aile droite des alliés. Victor et Marmont vont emprunter le défilé de Plauen pour s'insérer dans les troupes alliées. Murat s'est dit, tiens, hier ça a bien marché, je vais refaire le même truc. Et effectivement, ça marche bien. Et donc, vous voyez vraiment le mouvement en tenaille. Murat par là et la cavalerie de la garde par là. Vraiment pour embrasser l'ennemi, l'encercler, empêcher de se replier. Et donc, évidemment, c'est ça qui fait les victoires. À 15 heures, Murat continue à progresser, Victor également, et ça provoque le repli plus que désordonné des alliés. Alors ici quand même, parlons de quelqu'un dont on n'a pas encore parlé, c'est Moreau, général français, un des grands généraux de la République, républicain convaincu, qui a mis son épée au service des puissances réactionnaires, et qui sert dans l'état-major allié, il est aux côtés d'Alexandre. Alexandre, un homme bien poli, a un petit défilé étroit, il y a la place seulement pour un cheval, et il dit à Victor, passez, Victor, il s'appelle Victor, mais enfin bon, à Moreau, passez. À ce moment-là, il y a un boulet français qui arrive, qui traverse son cheval de part en part et qui lui arrache les deux jambes. Le malheureux, il sera emporté, il sera amputé et il mourra à Lund en Tchéquie quelques jours plus tard. Et alors ça s'est passé ici, un magnifique monument. Il paraîtrait qu'on aurait enterré ses deux jambes en dessous du monument. Et il y a trois chaînes. Et ces trois chaînes représentent, ils datent de l'époque, hein, donc ils sont presque bicentenaires, ils représentent les trois puissances, l'Autriche, la Prusse, l'Autriche, la Prusse et la Russie. Voilà. Et alors ce tableau romantique qui représente la mort de Moreau. Garde Busch, tout un petit événement dont on ne parlerait pas si dans cette attaque d'un convoi français, Théodore Körner n'avait été tué. Garde Busch, c'est fort dans le nord, hein, c'est entre Lübeck, près de Lübeck, donc c'est près de la mer du Nord. Alors l'endroit où il a été tué et sa tombe, Kriegswitz ou Struppen, bon, c'est la poursuite de Dresde et c'est le prélude à Kulm. Vandamme a ordre de poursuivre les alliés et surtout essayer de leur fermer la porte qui permet aux armées alliées de se réfugier derrière le Erzgebirge, les monts métalliques. Et malheureusement, il arrive trop tard et la retraite n'est pas coupée, donc de ce point de vue-là, c'est une défaite. Voilà le champ de bataille. Il y a un monument ici au prince Eugène de Wurtemberg, dont la plaque est un peu dithyrambique. En fait, c'est pas une grande victoire du point de vue des effectifs, mais c'est un échec tactique ou même stratégique pour Vandamme. Vandamme, malgré tout, on va pas rester dans la même zone, on va aller beaucoup plus loin en Pologne, à la Katzbach. La Katzava maintenant est une rivière où l'armée de la Bauber, sous le commandement de MacDonald, va rencontrer Blücher. Blücher avec quand même plein effectif, 86 000 hommes, contre même pas 50 000, pour McDonald's. Et vous allez voir l'effet ici entre 7 et 12 000 hommes, entre 15 et 18 000 prisonniers, entre 30 et 105. Bon, le 105, j'y crois pas trop, mais ce sont les chiffres donnés par Langeron. Langeron, il dit, mais 105 pièces, mais il met que 7 000 pertes. Enfin bon, et surtout, enfin pas surtout, non, mais 300 caissons, ça veut dire que, point de vue logistique, on a dû vraiment abandonner beaucoup de choses et deux aigles. Le champ de bataille de la Katzbach. La Katzbach est en fait la rivière qui coule ici tout en haut, et les combats auront plus lieu sur la Wüthendenneisse. Bon, ici de nouveau, j'ai dû retourner la carte, c'est pour ça que je préfère utiliser cette carte-ci, qui est bien orientée. Donc, à 10 heures, McDonald's arrive par le nord. Donc, vous voyez là, c'est la Katzbach, hein? La Wüthendenneisse est ici. Blücher arrive par le sud. La cavalerie française rentre dans le défilé de Niederkrain. Lauriston, donc McDonald envoie Lauriston sur son aile droite. Et là, il rencontre Langeron, l'émigré français dont je vous ai parlé. York arrive à 14h et s'installe sur le plateau. Ça, c'est un plateau. À 14h, donc, il est en place. Gérard, 4e corps, attaque sur l'aile gauche française vers 15h. Et Lauriston progresse très bien. Il repousse Langeron de village en village. Donc, de ce côté-là, ça va très bien. Mais Blücher, qui n'est pas d'hier non plus, envoie York et Sacken. Sacken, c'est un russe, c'est pas terrible comme général, mais York est très efficace, contre Gérard. Et là, les troupes de Gérard ne vont pas bien résister, alors que Lauriston réussit presque à déborder et à envelopper l'aile gauche des Alliés. En même temps, les Alliés vont envelopper l'aile gauche des Français. Et ce sera à celui qui arrivera le plus vite, et ce sera York, qui va foncer à travers, repousser Gérard. Gérard qui va se replier en catastrophe au-delà de la Wüthendenneisse ici, et puis de la Katzbach, et qui va entraîner avec lui, évidemment, le corps de Lauriston, qui avait bien progressé, et qui doit se replier en quatrième vitesse également. Donc deux vues du champ de bataille, le Weinberg, Kleist était par là, l'artillerie française ici, le château de Krain, quartier général de McDonald, et également hôpital après la bataille. Et alors c'est un peu comique ici, ces stèles, il y a toute une série, elles ont quasiment toutes été détruites par quand les soviétiques sont arrivés en 44-45, ou bien sous le pouvoir communiste, mais depuis lors et depuis la chute du régime, on a commencé à remettre des stèles. Les stèles avaient été mises à l'époque où c'était la Silésie, donc où c'était sous domination prussienne. Et donc, il y avait ces croix de fer avec l'inscription en allemand. Maintenant, quand les Polonais ont réinstallé cela, ils ont fait ça d'un côté en allemand et de l'autre côté en polonais. Il y a la croix de fer du côté allemand, et il y a le N couronné pour le côté polonais. Ça dit assez, hein, sur l'identification entre la Pologne et Napoléon. Donc, Bitwan Katzawa et Schlacht an der Katzbach. Petite chose quand même, tout ça a été financé par des fonds allemands, hein, quand ça a été remis. Alors ici, il y a un vieux monument avec des boulets. Ici, le guet de Niederkrain, donc le corps de Gérard est descendu ici, ça n'a pas changé depuis 200 ans, ce sentier qui est toujours un sentier, et a traversé le guet ici, vous voyez l'image là, la panique, en plus cette bataille a lieu sous une pluie battante, et ici le guet tel qu'il est encore de nos jours. Le guet sur la Wüthendenneisse, il y aura encore plus tard le passage de la Katzbach, et il y aura encore un épilogue à ceci. Bataille d'Hagelberg, là vous avez la division Girard, qui fait partie, donc Girard, vous le connaissez, il sera mortellement blessé à Ligny, il décédera à Paris quelques jours plus tard, donc en 1815, il commande le corps d'observation de Magdebourg, mais surtout une division qui va rencontrer une partie du corps de Tauentzien à Hagelberg. Et il y aura, sur 8900 hommes, regardez, 2000 tués et blessés, 2140 prisonniers, 7 pièces sur 15, plus 1700 prisonniers et un canon pris dans la poursuite par les Cosaques. Donc vous voyez que des 8 000, près des 9000 hommes qui ont quitté Magdebourg, il y en a 2-3 000 qui sont rentrés à Magdebourg, hein, donc la division n'existe quasiment plus. Hagelberg, ici, donc la veille de la bataille, Girard progresse en fait vers Berlin, il doit soutenir Oudinot. Mais il progresse seul, ce n'est qu'une division, ce n'est pas un corps d'armée. Donc il progresse prudemment, d'autant plus qu'il est régulièrement harcelé par des Cosaques. C'est les flèches que vous voyez là, ce ne sont pas des Kalmouks. Alors le soir, il cantonne et il bivouaque aux alentours de Lubnitz. Le lendemain, au matin, Hirschfeld mène très bien son affaire. Vous ne voyez malheureusement pas très bien, mais c'est des forêts ici. Donc il amène ses troupes à travers la forêt, en lisière de forêt, pour attaquer la division Girard des deux côtés, comme cela. Girard, évidemment, ne peut pas résister très longtemps et se replie sur le Hagelberg. Hagelberg, c'est la colline, enfin il y a plusieurs collines et c'est le village. Et donc il se replie là. Jusqu'à présent, ça va. Il installe ses canons en batterie et ses canons empêchent l'infanterie prussienne d'approcher. Là, elle est en lisière de forêt, très bien fait, en lisière de forêt, et en plus il y a des Cosaques par ici. Donc, jusque-là, il stabilise. Les Prussiens attaquent de trois côtés, et en plus, les Cosaques arrivent ici, je crois que c'est Tchernichev, il arrive et coupe presque la retraite des Français. Alors là, évidemment, en plus, Girard est blessé à ce moment-là. On replie les troupes vers Kleinglin, et puis vers Grosglin, et puis ce qui reste des troupes va aller via deux routes vers Magdebourg, et je vous dis, encore une grande partie, von Hirschfeld, enfin, ses troupes sont exténuées, il laisse la poursuite aux Cosaques, et les Cosaques vont faire encore presque 2000 prisonniers. Alors ici, dans le folklore allemand, c'est connu sous le nom de Der Kolbenschlacht, la bataille des crosses. Alors il y a deux explications à cela. Il y a une plus vraisemblable, c'est que cette bataille a lieu sous une pluie battante. Sous une pluie battante, évidemment, on ne sait pas ni charger, ni tirer, surtout parce que le bassinet est mouillé. Donc, les troupes prussiennes vont se battre, parce qu'elles en veulent, elles vont se battre à coups de crosses. On dit aussi, mais alors ça c'est la légende, que ce sont de jeunes recrues qui ne savent pas encore comment armer leurs fusils. Enfin bon, c'est comme le soldat français, son officier lui demande pourquoi ne tirez-vous pas, il dit j'aimerais bien, mais je voudrais que quelqu'un m'explique comment on fait. Donc c'est un peu cela, et donc il tape aussi, ce sont des paysans. Donc qu'est-ce qu'ils voient? C'est la légende, je dis pas ça. Qu'est-ce qu'il voit dans un fusil? Il voit un fléau. Et il tape comme si c'était un fléau. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Der Kolbenschlacht. La bataille des crosses. Ah oui, aussi, évidemment, la propagande prussienne s'y met. Ils vont dire, ce sont des jeunes recrues qui vont combattre des troupes aguerries de Napoléon. Pas du tout, hein. Ce sont des gardes nationaux, ce sont des jeunes recrues également, hein. Tout simplement, il y a, je dirais quand même que ça va de mieux en mieux pour les Prussiens et ça va de moins bien pour les Français, et ça joue aussi pour donner du courage, hein. Courage qui est d'un côté et de moins en moins de l'autre. Alors ici, sur le Kienberg, un magnifique monument, comme vous voyez, qui date de la période soviétique et qui fait la gloire de la fraternité d'armes, etc., etc. Le Hagelberg, enfin à Hagelberg il y a le Borussia Berg, ça c'est le monument avant la Deuxième Guerre mondiale, voilà ce qu'il en reste. Et ces canons sont des canons français de la guerre de 70. Ils ont disparu depuis longtemps. Mais... Alors le Bau Ebersdorf, je mentionne, parce qu'il y a Poniatowski, mais ce n'est pas tellement important. Alors une grande bataille, Vandamme à Kulm. Vandamme, on a dit beaucoup de mal de lui, mais je crois que dans cette campagne 1813, c'est le seul général qui en veut, qui veut se battre, qui est agressif, qui se bat comme Napoléon le veut. Il y a peut-être une raison. C'est un des seuls qui n'est pas encore maréchal. Donc il veut son bâton de maréchal. Et s'il avait remporté cette bataille, pour moi, il aurait été le maréchal de la campagne de 1813, sans aucun doute. Bon, je ne dis pas, c'est pas parce que c'est un voisin, que c'est quelqu'un de très très recommandable, parce que Napoléon a dit de lui, si j'avais deux Vandamme, j'en ferais fusiller un. Mais malheureusement, j'en ai qu'un, parce qu'il était un peu pillard, vous voyez. Il n'était pas le seul dans son cas. Alors, la bataille de Kulm, voilà en quelques tableaux. Vandamme arrive par le nord. C'est véritablement un défilé avec une dénivellation de 10-12 degrés. Donc c'est très difficile. Il arrive du nord et donc de part et d'autre, c'est un col, il y a le Erzgebirge, le mont métallique. Il arrive dans Kulm. Là, il rencontre des Russes. Les Russes et derrière la garde impériale. 5 heures du soir, premier jour, les Français sont installés là, ont progressé jusqu'à Straden. En face, il y a des Russes. Donc vous voyez, les Russes reculent. À Straden sera tué le prince Henri 61. C'est 61, donc ça. Donc de génération en génération, le premier né s'est appelé Henri, et c'est pour ça, je ne connais aucune dynastie comme ça, qui arrive au chiffre de 61, prince de Reuss-Schleitz sera tué, vous pouvez lire l'anecdote, et entre-temps, je vais quand même vous dire que ce général a l'honneur d'avoir son buste dans la galerie des batailles, dans les grands noms de l'histoire de France, dans la galerie des batailles à Versailles. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Et voilà la petite chapelle où il y a une plaque à sa mémoire. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer, elle était fermée. Voilà Kulm. Les Français arrivent de là. Ça, c'est la montagne qui domine Kulm, où il y a cette chapelle, qui était l'observatoire de Vandamme. Et ici, on se dirige vers Straden. Ici, on est aux positions russes, en regardant plus vers le sud, avec ce monument-là. Alors, un magnifique monument en fonte, qui lui est russe, c'est le monument à l'armée russe et à la garde russe. Très beau monument. Ah oui, c'est une déesse de la victoire qui écrit la date sur un bouclier. Alors, on continue. Le lendemain matin, 7 heures, voilà les positions, russes contre français. Et à ce moment-là, arrivent les Autrichiens du sud-est, armée de Schwarzenberg, n'oubliez pas. À midi, on en est là, et Vandamme est obligé de se mettre, je ne dis pas en carré, mais voilà. Ça on sait pourquoi, à cause des Russes, à cause des Autrichiens, mais là, le gros problème, la catastrophe. Donc là sont les Russes, encore des Russes, les Autrichiens, et là arrive Kleist, les Prussiens. Tout simplement, personne n'a maintenu la porte ouverte. Marmont devait suivre, mais Marmont, il n'est pas très chaud pour aider ses petits camarades. Surtout, lui est maréchal et Vandamme pourrait avoir son bâton, donc ça le dérange un peu. Il ne poursuit pas, il laisse la porte ouverte et qui en profite? Kleist. Kleist en profite et ferme la porte. Conclusion, fermez les trois côtés. Et là, c'est des montagnes avec uniquement quelques sentiers. Donc, là, catastrophe. Voilà, à 1 heure de l'après-midi, troupes françaises, les Russes, les Autrichiens, les Prussiens, et il n'y a rien d'autre à faire, il faut essayer de percer. Vers le sud, ça n'a pas de sens, évidemment, vers là non plus. Vers là, les Prussiens arrivent, et donc on essaye par là. Mais il n'y a pas de route, donc. Alors, fin de la bataille, les Français sont là, essayent de percer, quelques-uns perceront, oui, d'autres passent là. Et là, vraiment, ils passent à travers les troupes prussiennes. Et les Prussiens se disent, avec des fous furieux comme ça, il vaut mieux les laisser passer, sinon on va se faire écraser. Donc, les Russes attaquent par là, les Autrichiens par là, et les Prussiens s'écartent un peu. N'empêche que les Français vont perdre énormément de troupes, et Vandamme et Haxo, qui commandent la cavalerie, seront capturés. Et les quelques troupes françaises seront recueillies. Voilà ici le monument qu'on voyait à la mémoire des soldats du premier corps d'armée français du général Vandamme. Et alors, en très beau français de l'autre côté, il est marqué « à tous tomber ». C'est du français traduit par je ne sais pas quoi, mais avant l'époque informatique. « À tous tomber ». Quelques images de la bataille qui a beaucoup inspiré. Alors, de nouveau, le monument prussien, érigé en 1815-1817. Et puis pour le 50e anniversaire, les Prussiens, qui étaient les premiers sur place, se sont aperçus que les Russes ont fait le monument qu'on a vu tout à l'heure, les Autrichiens ont fait ça, les Autrichiens ont fait un deuxième, et donc ils se trouvent tout petits. Ben, qu'est-ce qu'ils font pour le 50e anniversaire? Ils mettent un socle pour surélever, pour ne pas avoir l'air ridicule à côté des autres. Monument à Colorado Mansfeld, commandant autrichien, c'est un monument en fonte. Hein. On peut espérer, vu le poids, que ça ne sera pas volé. Alors ici, c'est selon les panneaux, la tombe de 10 000 soldats. Bon, ils ont dû en enterrer vivants parce qu'il n'y a jamais eu autant de pertes. C'est quand même une tombe importante de la bataille. Et ici, un petit monument, relativement difficile à trouver, à l'endroit. Et bon, Vandamme, on en pense ce qu'on en veut, mais à ma connaissance, c'est quand même un des seuls qui a eu droit à un monument à l'endroit où il a été capturé. Ça n'arrive pas tellement souvent, il n'a pas été tué. Alors, il y a beaucoup de légendes après coup à ce sujet. On l'a amené, dit-on, au tsar. Et il y a plusieurs versions, c'est sans doute apocryphe, mais la plus belle, entre guillemets, c'est qu'on lui reproche d'être un pillard, ce qui entre nous n'est pas tout à fait faux. Il aurait répondu au tsar, oui, je suis peut-être un pillard, mais moi au moins, on ne dira jamais que j'ai été mouillé dans le meurtre de mon père. Et alors, ça, évidemment, Alexandre, qui était tout à fait au courant de l'assassinat de Paul Ier, son père n'aurait pas accepté, n'aurait pas apprécié, ce qu'on peut comprendre. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Plagwitz, là je vais passer un peu en revue, Plagwitz, c'est la conséquence directe de la Katzbach. Il y a toute une division française, la division Puteaux. 100 officiers, 3000 hommes, 16 pièces, 3 aigles et le général qui vont être capturés tout simplement par la montée des eaux de la Katzbach. Ils vont être coincés et les Prussiens n'auront plus qu'à les cueillir. Et voilà, donc ça c'est aussi une conséquence de la bataille de la Katzbach. Tout ce mois d'août se passe en majorité sous une pluie battante. Hein, ça. Bon, voilà la situation le 30 août. Deuxième siège de Glogau, j'en profite pour montrer les douves de la forteresse. Et Laplane, le général Laplane, résistera jusqu'au 10 avril. Pas mal, hein? Avec 5000 hommes contre une armée qu'il encercle de 21 000 hommes. Et tous les jours, il faut lire le livre que je vous ai montré, ils font les effectifs parce que les 5000 hommes, tous les jours, il y en a moins. Hein? Gadegast-Zana, seul prélude à Dennewitz, né avec les corps de Bertrand, Régnier et Oudino, progresse vers le nord, deuxième bataille de Berlin, entre guillemets, contre Townsend, il le repousse, pas une grave bataille, quand même un beau monument. Et alors, le lendemain, Dennewitz, vous voyez les forces en présence, deux corps prussiens, trois corps français, mais quand même supériorité numérique nette. Et alors vous voyez, les pertes sont équivalentes, mais de nouveau, 10 000 déserteurs. Et comme ça, cette grande armée va s'effondrer petit à petit. C'est pas le fait d'avoir perdu la bataille, c'est pas le fait de ne pas prendre Berlin, mais c'est le fait que le moral est sapé et que petit à petit, l'armée s'effondre. Dennewitz commence à 9h, Bertrand prend le village, ça marche bien, il pousse une division vers Niedergösdorf, mais à ce moment-là, à 10h, Bülow arrive. Bertrand est soutenu par Oudino et Régnier. À partir de 13h, il continue à progresser, Bertrand. Il est soutenu sur sa gauche par la division de cavalerie de France. À 15h, Bülow est en place et engage la totalité de ses troupes. Et à 16h, le corps de Bertrand, encore une fois, faiblit et doit se replier. Mais ce n'est pas une débandade complète, ce n'est pas la panique. Mais à 17h, là, c'est la panique, c'est les Saxons qui vont, encore une fois, paniquer, qui vont se replier et qui vont provoquer à 18h la décision de Ney de se retirer complètement et donc avec... Dans les jours qui suivent, les 10 000 déserteurs, ce sont ceux qui profitent de la confusion et du repli pour se tirer. Alors ici, la plaine au nord de Dennewitz, très beau monument. Et évidemment, on a vu Kleist, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Kleist, sera Kleist von Nollendorf. Nollendorf maintenant Nakhlerov suite à la bataille de Kulm. Ici, Bülow sera plus tard Bülow von Dennewitz. Alors ici, c'est le seul monument de ce type qui est peint en vert. Alors ici, à Gölsdorf, vous avez encore une tombe en fonte d'un officier prussien aussi, de Carl Friedrich Schinkel. Et alors ici, je vous l'ai montré parce que c'est le seul monument suédois de la campagne. Un monument à l'artillerie suédoise. Ici, monument pour le corps de Tauentzien, la tombe de 80 grenadiers prussiens. Et alors ici, monument particulier, il ne ressemble à rien, mais ce n'est pas ça, monument aux Wurtembergeois. Wurtembergeois qui formait une division dans le corps de Régnier. Et donc, l'ennemi du temps des Prussiens, même du temps des nazis, ce n'était pas un problème. Mais, à l'époque soviétique, détruisez-moi ce monument que je ne peux voir, tout simplement parce qu'ils avaient le tort, peut-être pas tellement d'avoir combattu pour Napoléon, mais le Wurtemberg est entièrement situé en Allemagne de l'Ouest. Donc du temps d'Allemagne de l'Est, c'était très mal vu, ils étaient doublement traîtres, et c'est pour ça que ce monument a été détruit, et on a mis, après la chute du régime, on a mis cette simple plaque. Dohna, Pirna, petite bataille, pas tellement à parler, Ebersdorf, combat entre Poniatowski et les Russes, parce que les Polonais, ils n'arrêtent pas quand même de combattre. Pirna se trouve là. Alors Nollendorf. Nollendorf, je vous en ai parlé, ça se trouve ici. Il y a du 8 au 16 septembre, toute une série de petites batailles. À Nollendorf, mais tout le long de cet axe, et en fait cet axe, c'est le col qui permet de traverser le Erzgebirge, les monts métalliques. Bataille de Peterswalde le 16, et alors Arbesau le 17. Arbesau, et regardez, vous êtes là, sur le champ de bataille de Kulm de nouveau. Hein. Donc, ici, il y a des panneaux qui indiquent à quel point l'héroïque armée autrichienne a repoussé Napoléon avec sa garde. Effectivement, venant de Dresde, Napoléon descend, mais la route a déjà tellement été utilisée, c'est un col, il n'y a qu'une seule route praticable, il a plu tout le temps, elle est impraticable pour les troupes à pied, c'est déjà difficile, et la cavalerie et l'artillerie, c'est encore pire. Donc Napoléon se dit, ça ne sert à rien, on ne sait même pas se déployer, donc moi je rentre à Dresde. Et alors c'est représenté, il n'y a pas eu vraiment de combat. Il y a un petit événement tout à fait accessoire à Peterswalde. Regardez, 1er et 2e escadron des lanciers polonais de la garde, la vieille garde et 20 gardes d'honneur, 200 contre 700 et 20 blessés et prisonniers du côté prussien. Ici, vous avez deux tableaux, parce que ça a été beaucoup représenté par les Polonais. Et ici, un beau tableau de Patrice Courcel, et on a l'honneur d'avoir le propriétaire de ce tableau dans la salle ici, je le remercie. Et donc, c'est une simple anecdote, c'est pas important, mais il y aura des conséquences. Les Polonais progressent. Ils ont en face tout un régiment de hussards, contre deux escadrons. Ils se disent, ça va très mal, on ne sait pas se déployer. C'est des vieux rusés, hein, c'est des escadrons polonais de l'ancien de la vieille garde. Et un des chefs d'escadron sort son mouchoir blanc et il va vers les Prussiens, vers les cavaliers prussiens, en disant en russe, nous sommes russes, ne tirez pas. Les Prussiens se disent, là, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être vrai. Vous avez vu, hein, je vous ai montré les uniformes, ils se ressemblent très fort. Pendant ce temps-là, les Polonais se mettent en place et ils chargent les Prussiens. C'est pas beau, mais enfin bon, on a vu pire. Et effectivement, les Prussiens sont balayés. Qui commande ce régiment de hussards? Le colonel Blücher, le fils du maréchal, du feldmaréchal, qui n'est pas encore feldmaréchal à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a eu des morts. Il y a une vingtaine de blessés et prisonniers, dont Blücher, et l'arrêt qui est là, parce que c'est la vieille garde, donc Napoléon n'est pas loin, etc., l'arrêt n'est pas loin, vient le soigner. et ils sont tellement abasourdis qu'on vienne soigner un ennemi. Donc ça dit assez sur la mentalité. Hein. Donc les décès français ne veulent pas compter sur l'aide des services sanitaires alliés. Ils sont tellement étonnés. Et Blücher se remet. Et c'est suite à cela que, quand au soir de Waterloo, l'arrêt est fait prisonnier par les Prussiens, on menace de le fusiller, Blücher intervient et lui donne un sauf-conduit pour qu'il rentre dans la ligne française. Ça, c'est l'anecdote qui est la conséquence de ceci à Peterswalde. Alors, Arbesau, l'emplacement de l'église n'existe plus, mais c'est donc là que Napoléon avait pris place le 17. Il y a cette petite place. Goerde, on la remonte dans le nord. Davout avait envoyé la division pêcheuse pour arrêter des raids. Et ça se sait, et les alliés tendent une embuscade, et vous voyez que presque la moitié de la division et la totalité de son artillerie sont capturées. Voilà la progression, vous voyez ici, c'est le 19 septembre, mais avec tout ce qui se passe, Napoléon a gagné à Dresde, oui, mais Ney a été battu, Oudinot a été battu, Vandamme a été réduit à néant, et MacDonald presque de même. Donc, hop, on se replie. Ici, derrière Loder. Bon, vous voyez là qu'il se trouve Walmoden, etc. Et alors ici, nous avons Schwarzenberg et alors Bennigsen qui entre en scène, une nouvelle armée russe. Ici, vous avez Wittenberg, si je ne me trompe. Ah non, Wartenburg, pardon, oui, c'est à côté de Wittenberg. Bataille de Wartenburg, la dernière bataille avant Leipzig. Encore Bertrand, avec une division française, une division italienne et une division wurtembergeoise, et une brigade de cavalerie. De nouveau, Bertrand va être battu. C'est pas vraiment sa faute, c'est les Wurtembergeois qui vont le laisser tomber en fait. Pas énormément de pertes, 1000 prisonniers, bon voilà. Alors la bataille, très bien menée par les Prussiens, ils vont franchir l'Elbe, ici, sur des ponts de bateaux. Les Français ont pris position le long de cette ligne, derrière une digue, c'est très marécageux, c'est très humide, vous voyez d'ailleurs sur la carte. Trois divisions, enfin brigades, donc d'une part Steinmetz contre Morand, Mecklembourg qui va s'attaquer aux Wurtembergeois. Les Wurtembergeois vont s'effondrer, Mecklembourg va continuer. Va contourner par Bledin, puis Goblich. À ce moment-là, on va envoyer la cavalerie française pour essayer de les arrêter, mais ça ne suffira pas. En plus, la troisième brigade allemande va attaquer les Italiens de Fontanelli, sur la digue également. Et pendant ce temps-là, Mecklembourg contourne, et évidemment, la situation ici, sur la digue, devient intenable parce que l'ennemi arrive derrière. Il ne reste qu'une chose à faire pour Bertrand, c'est de se replier. Alors ici, vous voyez où a eu lieu le franchissement. Ça, c'est la plaine. Maintenant, elle est un peu asséchée. À l'époque, c'était très marécageux. La digue dont je vous ai parlé, très bon rempart pour les Français. Donc, il ne faut pas croire qu'ils combattaient toujours debout. Hein. Quand il y a des obstacles, on peut profiter, on ne se gêne pas. Ça, c'est la digue à l'heure actuelle. Et alors, ici, York deviendra York von Wartenburg. Le monument ancien et le monument de l'époque de la DDR. Voilà. Et alors maintenant, vous voyez Wartenburg par rapport à Leipzig. On a vu tout cela. Résumé des mouvements du 1er au 15 octobre. Alors, le 8 octobre, important, la Bavière quitte la Confédération du Rhin. Donc, un allié quand même important abandonne. Voilà la bataille de Leipzig. Alors, évidemment, ici, il y a énormément de troupes. J'ai un peu regroupé au nord, au sud et au centre. Napoléon garde ses meilleures troupes, évidemment, auprès de lui. Premier jour, 160-180 000 hommes. Pour les pertes, Désolé de le dire ici, mais je trouve que M. Pijard exagère très, très, très fortement. On verra des chiffres plus précis tout à l'heure. Du côté allié, il y a Scherzenberg, Barclay, Blücher, Karl Johan, évidemment, c'est Bernadotte, et alors Benningsen. Ici, 160 000 hommes pour Napoléon le premier jour, 185 000 le 18, donc le troisième jour. Les alliés, 250 000 le 16, 365 000 le surlendemain. Pourquoi ? Parce que l'armée de Benningsen et une grande partie de l'armée de Bernadotte sont arrivées. Évidemment, quand vous avez du jour au surlendemain 140 000 hommes qui arrivent en plus, il y a de quoi faire pencher la balance. Hein. Alors ici, une petite chose, la bataille de Leipzig est très facile à suivre sur le terrain parce que le professeur Dr. Apple, pour le 50e anniversaire de la bataille, a mis des stèles qu'on a appelées des Applesteine. Donc en plus, ce docteur était aveugle, donc il a eu quand même un grand mérite d'avoir réalisé tout ça. Il y en a 50 et elles s'identifient comme ceci. Les Françaises ont un numéro impair, ont ici un arrondi, là un arrondi, un N pour Napoléon, et au sommet arrondi, on dit pour un peu représenter le chapeau de Napoléon. Les stèles alliées ont un numéro pair, c'est exact jusque vers le numéro 45, et tout est triangulaire ou pointu, et un V pour Verbündete. Alors ici, vous avez cet extrait de mon site, donc si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer et ça vous conduit directement à l'endroit du monument, avec le monument de près et de loin et les inscriptions et l'historique. J'attire aussi cet extrait de Google Earth, évidemment, votre attention sur ceci. C'est d'immenses lacs. Et tous ces lacs sont en fait la conséquence de l'extraction de lignite sous la DDR. Et cela a détruit une très grande partie du champ de bataille, donc à l'époque de la DDR, à tel point qu'il y a des villages entiers qui ont été, non pas engloutis, mais ont été détruits, et on a extrait à ciel ouvert la lignite, et ce n'est qu'après coup qu'on a rempli cela d'eau. Donc c'est pour ça que beaucoup de ces monuments ne sont plus à l'emplacement d'origine, après coup on a essayé de les replacer le plus près possible, mais les villages n'existaient plus. Hein. Donc c'est ça tous ces grands trous que vous voyez là. La bataille de Leipzig commence le 14 par un combat de cavalerie au sud, à Liebertwolkwitz, monument autrichien. Il y en a eu 5, il en reste 4, toujours avec l'aigle bicéphale, et alors chaque fois l'inscription des corps autrichiens qui ont combattu. Commence donc le 14, Wurtemberg, attaque, contrée par Pajol et Lauriston. Les Russes sont soutenus par Pahlen et Röder, mais les Français par Poniatowski et Littor, c'est cela. Alors les Autrichiens de Bubna attaquent de ce côté-là et on en reste là pour le premier jour. Rien de décisif, grande charge de cavalerie, Murat paye de sa personne, est presque capturé, mais bon, pas beaucoup d'effets. Quand même quelques souvenirs. Ce monument, ici, vous voyez Flachendenkmal, donc le paysage est conservé comme monument. Évidemment, au cours des siècles, Leipzig s'est étendue. C'est la dernière petite partie du champ de bataille qui est intacte et maintenant elle est protégée. Alors ici, quand même, la tombe d'un sous-lieutenant, le comte Cayetan Alberti de Poya, autrichien, tué en transportant une dépêche. Et une tombe commune dans le même cimetière. Alors, ce que j'avais utilisé comme couverture, c'est ce tableau de Rousselot qui représente le 15, l'empereur qui remet les aigles au régiment de nouvelle formation du maréchal Augereau. Donc, l'empereur distribue encore des aigles le matin la veille de Leipzig. Voilà une vue aérienne. Bleu, c'est les Français, évidemment. Rouge, ce sont les alliés. Ici, on voit très bien, en fait, il s'agit pour le 16 de deux batailles différentes, Ney au nord et Napoléon et le reste au sud. L'objectif de Napoléon, c'est de détruire celui-là pour ensuite se retourner et détruire Blücher. Ça, c'est la théorie, en pratique, ce ne sera pas le cas. pour diverses raisons. Alors, voici la carte. Bataille de Wachau, donc c'est le secteur sud. J'attire votre attention sur le Kolmberg, qu'on verra tout à l'heure. À 8h, Württemberg attaque. À 9h, Kleist, puis Pahlen, Gortchakov, Kleinau, autrichien. Du côté français, il y a Poniatowski, Victor, Loriston, MacDonald. Grosse bagarre à Wachau, le village est pris et repris 5 fois. À midi, ça donne cela, voilà les positions. Là, vous voyez le N, c'est les positions de Napoléon, donc sur le Napoléonsberg, encore une fois, tandis que les alliés sont sur le Monarchenhügel, ici. Monarchenhügel, donc ça c'est la partie, le monument a dû être déplacé quand on a détruit le village, mais il existe encore. Alors, à 12h, MacDonald attaque. À 14h, c'est une attaque généralisée sur tout le front français. Et alors, en même temps, Murat donne sa grosse charge de cavalerie à la même heure, et ça donne lieu à un très grand combat de cavalerie dans la plaine, qui est la plaine qu'on a vue tout à l'heure. Mais ça ne marche pas vraiment. Les Russes relancent une attaque qui est cassée par l'artillerie française. Comme ça ne va pas pour les Russes non plus, les Autrichiens ici, Hesse-Homburg et Merveldt, attaquent sur le flanc gauche, mais ils vont se casser les dents parce que face à eux, il y a des Polonais. À 17h, on renvoie des renforts, entre autres de la garde, et une petite attaque encore ici vers 19h et ça se stabilise. Quelques images de Wachau, donc une grosse bataille. Celle du 16 est moins grosse que celle du 18, mais enfin bon quand même. Alors ici vous avez quelques Appelstein de Kleinau, Kleist, Bianchi et MacDonald. Vous voyez donc française et alliée. Un monument prusso-russe de Wachau, là où la bataille a commencé finalement. Alors, le Galgenberg, évidemment, c'est le Napoleonsberg, mais c'est de mauvais augure parce que ça s'appelle aussi le Galgenberg, le mont de la potence. La dernière fois que je suis passé là, le monument avait disparu. Vous voyez, un bloc pareil, comme ça, il n'était plus là. Mais il y avait des travaux, on aménageait, et j'ai vu sur Internet que le monument était revenu quand même. Alors ici, ça c'est le monument qui indique l'endroit où, donc le Monarchenhügel, qui a été déplacé, la montagne, enfin la colline n'existe plus, et il a été placé au centre du village de Wachau, donc qui n'est pas l'endroit exact. Alors ici, un tableau pour lequel je dois l'analyse et la compréhension à M. Patin, qui a fait un très intéressant article dans Tradition. Vous voyez là-bas, au loin, les monarques en question, donc les trois, qui à un certain moment sont très fortement menacés par la charge des cuirassiers de la tour Maubourg et qui n'ont plus rien, plus personne pour les protéger si ce n'est le régiment des Cosaques qui n'avait pas été engagé. Alors Orlov Denissov prend un terrible risque, il abandonne ceux dont il doit assurer la garde et il attaque les troupes de la tour Maubourg dont la division est commandée par Bessière, le frère du maréchal. Il attaque plus ou moins de flancs. Également, les cuirassiers saxons sont repoussés et donc, avec sa petite unité, il réussit à casser l'élan de la cavalerie française qui était sur le point de s'emparer d'Alexandre et de François, et de Frédéric Guillaume. Donc ça aurait évidemment pu changer le cours de la bataille, mais il n'en est rien. Des positions de Victor, le monument sur le Kolmberg, entre Kleinau et MacDonald, avec la plaine que vous voyez là. Alors, Wachau, il y a deux petits châteaux, Torau-Dölitz, tenus par les Polonais, comme la plaque l'indique, et vous voyez sur la façade les impacts d'obus qui ont été marqués par des boulets. Les boulets ne s'est pas incrusté, hein. C'est à l'endroit où il y avait eu un impact qu'après en restaurant, on a mis un boulet et qu'on l'a fixé. Hein. Les boulets ne restent pas comme ça par l'action du Saint-Esprit. Vous voyez là l'action des Autrichiens, enfin l'attaque des Autrichiens et la défense des Polonais. Alors le Torhaus Markleberg, évidemment en Allemagne, Ceci est maintenant un très beau petit musée de figurines de plats d'étain, très intéressant, et Marc Leberg, c'est un musée de la bataille de Leipzig. Ça, c'est tout ce qui reste. Ça a été détruit par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Et Torhaus, Marc Leberg, vous voyez, en Allemagne, c'est que juste Denkmal s'est protégé. C'est pas comme ici. Alors ici, les environs, encore. Alors, le 16, dans le nord également, il y a des batailles. Bertrand a été envoyé sur l'autre rive de l'Elster et de la Pleiße pour quand même se ménager une sortie. Et ce ne sera pas inutile, comme vous verrez ultérieurement. York attaque, York sous les ordres de Blücher. Également, Sacken et Langeron, donc russes, enfin français et russes, français émigrés et russes également sous Blücher. Marmont est là. Dombrowski, division polonaise, très 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 bonne troupe. C'est une division polonaise qui est indépendante du corps de Poniatowski. Et York poursuit son attaque. Souan gardait le nord, là-bas, mais il est rappelé. Parce que Napoléon en a besoin au sud. Donc Ney doit le céder. Évidemment, ça n'est pas une bonne chose pour la propre bataille qu'il mène. La division Lagrange faiblit, ce qui entraîne Marmont. Et évidemment, Dombrowski doit suivre pour ne pas être isolé. Et voilà pour la bataille de Meckern dans le nord. Encore un Kugel-Denkmal, monument aux obus, boulets, pardon. Monument à Dombrowski. Lindenau, donc sur l'autre rive, les troupes de Bertrand, avec la Kuhturm qui n'existe plus, c'était donc la tour de la vache. Lindenau, monument autrichien. Et alors, le premier jour, selon Pijard, 20 000 morts et blessés d'un côté, 30 000 de l'autre. Difficile à dire. Le 17, il y a une pause qui est due à deux éléments. D'une part, les troupes sont épuisées, et d'autre part, le général autrichien Mervelt, qui commande un corps d'armée, est près du château de Dölitz, qu'on a vu tout à l'heure. Il voit des troupes qu'il prend pour des Hongrois. En fait, il s'agit de Polonais. Et parce qu'il est un peu myope, et il est capturé. C'est quand même un commandant de corps à l'armée, donc Napoléon l'utilise, il renvoie dans son camp, porteur d'une proposition de cesser le feu. Avec ceci, Napoléon propose remettre les forteresses le long de l'Oder et de la Vistule, de se retirer derrière la salle, et un cesser le feu et l'ouverture de négociations. François Ier, évidemment, ne peut pas accepter seul, et il refuse. Il y a quand même le 17 des combats à Gaulis. Dombrowski est attaqué par Sacken et il doit se replier. Mais enfin bon, rien de très grave. Par contre, ce qui est grave, c'est qu'il y a l'arrivée de renforts. 14 000 hommes pour les Français, 115 000 pour les Alliés. Ça, évidemment, ça ne pardonne pas. Les positions le 16 à 3 heures du matin. Donc Napoléon, ici, va s'installer près du Quanschen Tabakmühle, donc un moulin de tabac. Il y a un monument. Alors, très important, vont arriver au nord les troupes de Bernadotte et au sud-est les troupes de Bennigsen, mais elles ne sont pas encore là. Alors, à 3 heures, Bertrand commence à ouvrir la voie du repli. Bon, maintenant, il n'est pas difficile de comprendre qu'il est très mauvais de combattre dos à un obstacle. C'est une des premières choses qu'on apprend à un officier. Vous allez me dire, pourquoi Napoléon a-t-il commis une erreur pareille? Ben, il n'a pas eu le choix, parce qu'il voulait en terminer au sud avant de se retourner vers le nord. Mais les troupes au nord, plus chères, sont arrivées trop rapidement, parce que, en plus, s'enfuir, enfin, quitter le champ de bataille par là, direction Weissenfels et Lützen, c'est pas la direction la plus pratique. Mais Napoléon n'avait pas prévu d'aller par là. Son plan de repli ou de retrait était vers le nord. Mais il n'a plus pu l'utiliser parce que les Prussiens sont arrivés trop tôt. Et donc, à ce moment-là, son plan s'effondrait. Deuxième très grande chose, au matin du 18, on lui fait le rapport de la situation, il n'a plus que pour 100 000 munitions d'artillerie. Et 100 000 c'est moins, si je ne me trompe, que ce qu'on a tiré à Wagram. Donc, ce n'est même plus assez pour faire une véritable grande bataille. Ceci, c'est beaucoup plus important que Wagram, évidemment. Il faut bien se rendre compte que Leipzig, c'est une bataille. Plus de 500 000 hommes s'affrontent. On ne verra pas de bataille comme ça avant la bataille de la Marne. Hein. Donc, c'est une bataille tout à fait hors de proportion par rapport à ce qui avait eu lieu jusqu'à l'époque. Le matin, alors là, je ne sais pas pourquoi, mais les alliés reprennent le vieux système de colonnes. Colonnes qui vont mieux leur réussir qu'à Austerlitz. La deuxième colonne est celle de Kleist et de Barclay. La première qui attaque un peu plus tard, c'est celle de Hesse-Hombourg, donc les Autrichiens. Puis arrive Kleinau, la troisième colonne. Quatrième et cinquième colonne, c'est Bernadotte et Blücher. Et la sixième, c'est Goulay, qui a remplacé Mervelt de ce côté-là. À 10h, les Français contre-attaquent. Enfin, Français, Polonais et quelques troupes françaises ici. Et réussissent à très bien rétablir la situation. À tel point que les Russes sont obligés d'envoyer leurs réserves. La garde, si je me trompe. Alors, au nord, Blücher, à 10h, attaque également. Boubna, autrichien, enfin lui-même est hongrois, mais troupe autrichienne, arrive sur le front à ce moment-là et s'approche. Alors, à partir de midi, vous avez ceci. À 14h, Colloredo attaque Poniatowski. À 15h, le grand événement dont vous avez tous entendu parler, c'est la désertion et le retournement des Saxons. Ça se passe à Paunsdorf à 15h. Ils vont, je vais y revenir, mais ils vont passer entre Boubna et Benningsen, qui entre-temps est arrivé. Wintzingrode et Bülow, qui dépendent de Bernadotte, arrivent également, et vous voyez, plus de 100 000 hommes, ça fait basculer les choses. Ils attaquent Souan. Benningsen, troupe tout à fait fraîche, entre également en action. On combat dans tous ces villages. Et petit à petit, le front français recule en ordre. Ici Lauriston, puis MacDonald, Souan, Benningsen progresse, Boubna également. Et voilà, attendez, est-ce que j'ai rien oublié? Et voilà pour le 18. On s'arrête là. Donc vous voyez que ce n'est pas encore la catastrophe. Sauf que les Français n'ont presque plus de munitions. Bon, une autre carte. Alors, la trahison des Saxons, quand même, parce que on va vous poser des questions à ce sujet. Les faits, le 18 à 15h, à Paunsdorf, pourquoi? Ben, tout simplement, l'évolution de la guerre, l'évolution de la bataille. Le matin, la cavalerie légère saxonne, et à 14h, les Wurtembergeois, donc Normands qu'on a vu tout à l'heure, vont déserter. Alors, non, les Saxons n'ont pas tiré dans le dos des Français. L'infanterie, certainement pas. L'artillerie, peut-être trois pièces. Donc, c'est du délire, cette histoire. Tout le monde est en place, c'est la bataille. À un certain moment, c'est tout à fait prémédité, parce que les commandants de brigade s'étaient mis d'accord, avaient fait une petite réunion le matin derrière le dos de von Seychau, qui était donc le commandant de division, pour se dire comment on ferait le mieux pour passer à l'ennemi. Donc, contre l'avis de leurs supérieurs. Et à un certain moment, vers 15h, ils se mettent en branle. Ils mettent tout en marche et ils se dirigent droit vers les troupes ennemies. Tous les Français qui sont dans les environs se disent, entre autres Durutte, mais c'est formidable, ils attaquent, et tout le monde crie « Vive l'empereur !» pour les encourager. Et puis ils voient que les troupes alliées s'ouvrent, Boubna d'un côté, Benningsen de l'autre, et qu'ils rentrent là. Évidemment, quel est le nombre? Vous voyez, ils sont inscrits là, 2635 fantassins, 630 cavaliers et 19 pièces. Donc sur les 180 000 hommes de la grande armée, ça fait 2% et 2,2. Ajoutez 600 Wurtembergeois, on arrive à 2% et demi. C'est pas ça qui a fait basculer la bataille, hein, certainement pas. Et je vous dis, il y a peut-être, l'infanterie n'a pas, tirer dans l'eau des Français, peut-être trois pièces arrivées de l'autre bout, trois pièces d'artillerie se sont retournées, c'est possible, mais c'est pas sûr. Parce que aussi, les Alliés s'en méfient. Pourquoi ils vont les dispatcher entre les différents corps? Ce que les Français auraient dû faire, évidemment. S'il y avait une brigade chaque fois à côté de deux divisions françaises, ils n'auraient jamais osé faire ça. Par contre, ici, ils sont en division, tout seuls, et personne ne peut les arrêter. Donc, ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils ont donné leurs munitions aux Autrichiens, l'artillerie autrichienne, qui avait dû s'arrêter par manque de munitions, parce que là aussi, il y a des manques, évidemment, et qu'ils ont pu reprendre le tir. Mais je ne crois pas vraiment que ça ait joué une forte influence sur le cours de la bataille. Et d'ailleurs, ça a été très mal vu également par les Alliés. Hein. Donc, c'est le genre de choses qu'on change de camp ou que quelqu'un s'engage dans notre armée pendant un cessez-le-feu, qu'il y ait un retournement d'alliance, c'est tout à fait acceptable, mais en combat, ça ne se fait pas. Hein. Donc, c'était très mal vu. Trahison des Saxons, l'effet limité mais réel, surtout psychologique, parce que c'est un coup au moral des Français, ça c'est vrai. C'est de mauvais moments, mais évidemment, il n'y a jamais de bon moment pour ça. Et alors, en 1815, à Liège, il ne faut pas oublier que les Saxons n'aiment pas les Prussiens. Et en 1815, à Liège, les troupes saxonnes envoyées combattre Napoléon, au mois de mai si je ne me trompe, vont se mutiner à tel point que les Prussiens vont vouloir appliquer à eux la décimation comme à l'époque romaine, donc exécuter un homme sur 10. Finalement, ils vont se contenter d'en exécuter 6. Mais il y a 6 Saxons qui ont été fusillés par les Prussiens à Liège en 1815, et entre autres parce qu'ils avaient crié « Vive l'empereur ». Parce que là, donc en 1815, ils voulaient de nouveau changer de côté. Enfin bon, c'est peut-être pas nécessairement les mêmes, évidemment. Mais ça valait quand même la peine d'être signalé parce que c'est peu connu. Alors vous voyez, comment on peut faire de l'humour avec des monuments? Vous voyez ici la stèle des Saxons du XVI. Elle est bien française, avec un N. Voilà la stèle des Saxons de leur position le 18, arrondi là, mais pointu là. Donc français, français, mais allié. Alors quand même, pourquoi parler d'un seul homme? Parce que, quand même, quelqu'un de particulier, c'est le capitaine Richard Bogue, la seule unité britannique à avoir combattu à Leipzig. Sa tombe est au cimetière de Taucha, et il y a également une Appelstein à l'endroit. Et voilà une de ses roquettes reconstituées, enfin, un de ses dispositifs, c'est une échelle, hein, c'est rien d'autre qu'une échelle, et vous voyez là, au sommet, une roquette. Il y en a une autre au musée Wellington. Ceci, c'est une reconstitution. Bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Alors, ce sera la seule perte britannique de toute la bataille de Leipzig. Et encore, il commente la Rocket Battery, qui était de l'artillerie à cheval. Comme on n'avait pas besoin de lui, il demande à son supérieur commandant autrichien s'il peut participer à une charge de cavalerie. Il va participer à cette charge de cavalerie et c'est là qu'il sera tué. Donc, tout à fait en dehors de sa fonction, quand le panache s'y met, évidemment. Voilà, alors le Quanten Tabaksmühle, donc le moulin de tabac de M. Quant, où Napoléon avait pris position. Et vous voyez ce beau monument, enfin ce n'est qu'un bloc, mais il y a son chapeau au sommet. Alors ici, Schwarzenberg vient annoncer au souverain ça s'est passé à cet endroit-là, la victoire de Leipzig, et ça c'est le Monarchenhügel du 18. Donc il y avait un monument au 16, et où ils étaient, le 18, comme pour Napoléon. Alors, on arrive le 19, il n'y a plus que 2 heures de munitions d'artillerie, et Napoléon envoie de bon matin la vieille garde occuper la digue qui permet de traverser l'Elster et la Pleiße. À 7 heures, les Prussiens attaquent. Les Français commencent à se replier en dedans des murs. Donc Poniatowski, le 9e et le 2e, le 5e et le 11e corps. L'attaque se fait générale. Gyulay attaque par ici. Et alors là, toutes les attaques de Gyulay seront des échecs. Et les Alliés ne se gêneront pas pour dire que c'est fait exprès parce que les Autrichiens ne voulaient pas capturer Napoléon. Toujours, donc vous voyez qu'il y a une bonne ambiance chez eux également. Alors, le neuvième et le deuxième corps réussissent à franchir le pont. Oui, bon, vous allez aussi me dire, pourquoi un seul pont? Non, Napoléon a fait construire un deuxième pont. Malheureusement, il s'est effondré quand les premiers chariots sont passés. Donc, tout doit passer par un seul pont. Alors, le sixième et le troisième corps se replient dans les murs. Le septième de régner, en fait, c'est juste la division du Rut. Le cinquième et le onzième. Et, pour fermer la porte, les Polonais. Les Polonais, toujours à la peine. Les Russes attaquent. Là aussi, les Prussiens aussi, là c'est Bülow, ici Langeron, et puis Sacken. Et alors, ce qui ne devait pas arriver arrive, le caporal chargé de mettre le feu aux poudres entend des coups de feu, panique, et met le feu à la mèche qui fait sauter le seul pont, alors qu'il y a encore plus de 20 000 hommes de l'autre côté. Et alors, c'est la panique. Les troupes qui réussissent à traverser le font à la nage. Bon, c'est pas une rivière comme on imagine maintenant, c'est des marais, etc. On réussit plus ou moins, certains, McDonald réussit à traverser avec de l'aide, et Poniatowski va se noyer, nous allons voir. Bon, l'assaut des murs, faut pas oublier, ce sont des murailles, donc c'est presque un assaut comme au Moyen-Âge. Combat pour la porte de Grima. Ici également, le major Fricius qui conduit un bataillon de Landwehr, donc la Landwehr est bel et bien en première ligne. Ici la tombe dans le Johannes Friedhof de John Motherby, un volontaire anglais qui combattait dans la Landwehr prussienne. Donc vous voyez qu'il y, il y avait des voyageurs à l'époque aussi. Et alors ici, un tableau et alors un diorama en plat d'étain donc, du musée que je vous ai montré, où même Napoléon, c'est une pagaille indescriptible, tout le monde veut arriver, même l'empereur a des difficultés à arriver de l'autre côté. Et alors ici, le monument, comme on dit en bel allemand, le Brückensprengungsdenkmal, merci, le monument qui commémore donc l'explosion du pont, qui a été plusieurs fois représenté, souvent de façon fantaisiste. Et alors, ça provoque la mort de Poniatowski. Poniatowski, qui a été nommé maréchal l'avant-veille pour l'héroïque résistance des Polonais le 16. En fait, Poniatowski, lui, il se bat pour sa cause. Il est prince de Pologne. Ça ne l'enthousiasme pas particulièrement. Il est là pour faire son boulot. Il est blessé de 2 balles. Il n'y a plus de pont, donc il met son cheval à la rivière. Son cheval nage très bien. Son cheval arrive jusqu'à l'autre rive. Et là, la rive est trop à pic. Le cheval essaye de prendre pied. Il tombe à la renverse. Il tombe sur Poniatowski. Et on le retrouvera noyé 3 jours plus tard. Il sera d'abord enterré dans le Johannes Friedhof, puis transféré à Varsovie. Et maintenant, il repose dans le caveau des rois de Pologne à Cracovie. Alors, c'est le délire chez les Alliés sur la grande place de Leipzig. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, il y avait avant la guerre un très beau monument avec tous les généraux, statues équestres, mais il n'en reste absolument plus rien. Alors, le bilan, vous voyez pourquoi je mets les chiffres de Pijard entre parenthèses, enfin en plus petit, parce que je trouve qu'ils sont fortement exagérés, c'est presque du simple au double. Ce qui est, que ce soit de l'un ou de dans toutes les sources, les Alliés ont plus, quasiment, non pas dans toutes les sources, quasiment plus de pertes que les Français. C'est quand même assez flagrant pour une si grande défaite. Mais alors, du côté français, 15 000 morts, dont 16 généraux. C'est incroyable, c'est du jamais vu. 15 000 prisonniers, les gens qui n'ont pas réussi à franchir. 8 000 blessés prisonniers, c'est normal. Les Français reculent, donc ils doivent abandonner les blessés. 15 000 malades, ce sont tous les soldats français qui sont dans les hôpitaux de Leipzig. Donc tout ça ensemble, plus 325 pièces d'artillerie et 900 chariots, 28 emblèmes. C'est une catastrophe comme l'Empire n'en a jamais connu. Waterloo, c'est rien par rapport à Leipzig. Hein. Alors, ici, tous les généraux tués en rouge, blessés en blanc. Un maréchal tué, Poniatowski. 3 maréchaux blessés, Ney, Marmont, Bertrand. Et alors les généraux, ben là, vous voyez, il y a beaucoup de noms connus. Alors, les Prussiens ont construit ce magnifique, et là c'est de l'ironie, monument qui est le Völkerschlacht Denkmal, donc la bataille des nations. Cet horrible machin qui a été érigé pour le centenaire, il paraît que son grand mérite, c'est d'avoir une acoustique formidable, mais c'est avec de gigantesques chevaliers teutoniques, guerriers germains, et alors ici un gigantesque Saint-Michel, que vous voyez là, Saint-Michel, et à l'intérieur, donc vous voyez ces gigantesques guerriers qui font plusieurs mètres. Alors, il y a la version bavaroise que je préfère, qui est nettement plus élégante, et c'est la Befreiungshalle à Kelheim, qui célèbre la libération, la victoire sur Napoléon. Je vous signale quand même que pendant la presque totalité de la guerre, les Bavarois étaient du côté de Napoléon. Ça aussi, c'est de l'ironie selon moi. Mais, vous voulez savoir pourquoi, ça a été érigé sous Louis Ier. Et Louis Ier était le général qui commandait une division de l'armée de son père, mais était contre Napoléon. Donc ça explique pourquoi. Il y a une très belle salle intérieure avec des mosaïques, et alors vous avez des anges qui tiennent des boucliers avec le nom des batailles. Mais ça c'est en Bavière, non, c'est loin de Leipzig. Quand même un monument important, l'église orthodoxe russe Saint-Alexis, une véritable église orthodoxe, donc dans Leipzig, qu'on peut visiter. Il y a quelques tombes d'officiers, il y a une tombe commune à l'intérieur. Et alors en 2003, on a érigé une petite pierre avec une plaque de marbre au Bashkir. Donc eux non plus ne sont pas oubliés. Alors, bataille d'Hanau, il y a plein de parallèles à tirer avec la Bérézina, c'est moi qui ai inventé ça, Bérézina sur le Main. Napoléon veut rentrer à la maison et va passer à travers tout. En face de lui, il y a von Wrede, ex-général de Napoléon, qui commande l'armée austro-bavaroise. Et donc vous vous souvenez, le 8 octobre, les Bavarois ont rejoint les alliés. Donc Wrede se dit, moi je vais faire mon nom dans l'histoire comme l'homme qui a capturé Napoléon. Et il a les moyens, 45 000 hommes, 100 canons contre Napoléon, 30 000, 70 000. Et évidemment, Napoléon va lui foncer dessus. Les Français arrivent là, dans la forêt. Ils sont arrêtés à la lisière par l'artillerie bavaroise. Drouot emmène 12 canons faire le tour. On met 50 canons en batterie là, pour contrer. Et en plus, une attaque de flanc. Alors, à partir de 15 heures, les Bavarois commencent à se replier. Ils lancent une attaque de cavalerie, mais elle ne sera pas très efficace. Les Français font une attaque généralisée et les Bavarois se replient. Le gros problème pour eux, ce n'est pas tellement le Main, mais c'est surtout la petite rivière. Et là, ils auront énormément de difficultés. Donc, également, donc les parallèles avec la Bérézina, c'est que les alliés ont très mal joué. Napoléon veut franchir l'obstacle, il le franchira. Et alors ici, Wrede, évidemment, commet une horrible erreur que le premier sous-lieutenant venu ne ferait pas, c'est de combattre dos à l'obstacle. Évidemment, dos à l'obstacle, si on ne sait aller nulle part, si ça tourne mal, c'est absolument déconseillé. Et c'est pourquoi Napoléon dira, pauvre Wrede, j'ai pu en faire un comte, mais j'ai pas pu en faire un général. Alors vous voyez ici le tableau de Horace Vernet, la bataille d'Hanau, avec les batteries de Drouot, la charge de la cavalerie austro-bavaroise, et ici, la cavalerie de la garde de Nansouty. À Hanau, Wrede sera blessé le lendemain, juste pour lui trouver une excuse. Alors c'est évidemment l'effondrement de la Confédération du Rhin. Le 22 août, la Westphalie, 8 octobre, Bavière, puis la Saxe, en pleine bataille donc, le 2 novembre, le Württemberg, le 20 novembre, le duché de Bade, le 23 novembre, Hesse. Bon, Bade, vous voyez quand même, et j'ai dit les Badois seront, l'armée badoise n'existe plus en fait, ils seront tous capturés en défendant Leipzig le 19 au matin. Alors, le siège de Danzig, avec cette magnifique statue de Bartholdi, statue de Rapp, qui doit capituler le 29 novembre, mais pas plus qu'à Dresde, les alliés ne respectent les conditions. C'est-à-dire qu'ils disent, on signe, d'accord, bon, vous rentrez chez vous avec armes et bagages. Une fois que les Français sont sortis, on dit, ah non, désolé, je n'avais pas l'autorisation de négocier, mon chef ne veut pas, et vous allez tous en captivité. Ça sera le cas à Danzig, ce sera le cas à Dresde. À Dresde, il ne faut pas oublier, il y a un corps d'armée, il y a 30 000 hommes hein, qui seront prisonniers à Dresde. Ici, je parle de Danzig, mais c'est presque 40 000. Alors, les sièges, qui se termineront tous en 13 ou en 14, Glogau, Magdebourg, Dresde, 40 000 hommes, hein, 36 en fait, Würzburg, Mayence, Wesel, Uningue, et là on est en France, Hambourg, Davout, qui se rendra donc plusieurs jours après la chute de l'Empire, et alors on commence le siège de Belfort aussi. Alors sur la carte ça donne ceci, Glogau est déjà trop loin, Magdebourg est là, Erfurt, Würzburg, Mayence, Wesel, Uningue et Hambourg. La diplomatie, le 16, il y a les propositions de Francfort, c'est-à-dire que les alliés acceptent une négociation sur base des frontières naturelles de 1799, c'est-à-dire la Belgique, la Hollande et la rive ouest du Rhin restent à l'Empire. Napoléon accepte, mais les alliés refusent l'acceptation par Napoléon et exigent maintenant le retour aux frontières de 1792. Évidemment, vous imaginez bien que ça n'est pas acceptable et qu'en plus c'était un camouflet. Alors une bataille dont personne ne parle, c'est un peu Hanau dans le Holstein, c'est les Danois qui se disent que, bon, ben on veut rentrer à la maison. Les alliés, le corps de Walmoden se met en travers et les Danois passent à travers en leur occasionnant pas mal de pertes. Donc les Danois qui resteront un allié fidèle et les Austro-Russes et les Anglais en sont pour leur compte. Alors ici, ça c'est la préparation de la campagne de 1814, Bernadotte armée du Nord, Blücher, armée de Bohême, et alors la réserve et la garde, et alors le prélude, ça je l'ai dit, ça aussi, Vrede se remet, investit Uningue, les combats de Sainte-Croix en plaine. Le premier, Blücher, puis Sacken, puis Saint-Priest, franchissent le Rhin. Voilà où ça se situe sur la carte. Pardon. Combat de Sainte-Croix en plaine, surtout des dragons qui vont s'illustrer là. La bataille du 24 et la bataille du 31, ce sont deux batailles distinctes. Et alors, donc vous voyez en dessous le deuxième dragon reconstitué que je salue. Alors, le 1er janvier, Sacken et Saint-Priest franchissent le Rhin. Du 1er au 5, parce que toute l'armée de Blücher, ça fait évidemment du monde, sur des ponts de bateaux, comme vous voyez là. Et voilà, alors les conséquences, la campagne de 1814 sera la conséquence directe, évidemment. Plus loin, le traité de Vienne, et une chose qui perdurera encore longtemps, c'est le sentiment national allemand qui est né, qui a été forgé pendant cette bataille. Alors la suite, c'est ça, la campagne de France, ça c'est un autre épisode. Et alors, comme bibliographie, je vous signale deux ouvrages auxquels j'ai collaboré. Je vous rassure tout de suite, le texte principal a été écrit par Alain Pijard, moi je ne fais que la visite, je joue au guide, ils sont toujours disponibles. Alors, trois magnifiques livres de Georges Nafziger, qui couvrent magnifiquement toute la campagne, c'est en anglais, Lutzen, Dresde et Leipzig, Scott Bowden, je me suis également basé là-dessus, et facile à trouver également les Osprey, régulièrement réédités, et alors comme beau livre, vous avez Tranier Carmignani, et alors chez vous, Napoléon en Allemagne, que je peux vous recommander. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.
Pour cette très très belle conférence qui était très complète, et j'aimerais savoir si vous aviez encore des questions. 10 minutes, hein, parce qu'après je suis parti. Des questions?
J'ai épuisé l'auditoire, je le vois.
Alors je vous remercie pour votre attention et de votre être venus très nombreux. Et le prochain rendez-vous est le 16 mars. Le sujet sera